Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM. C'était mieux avant, on me le dit souvent. Mes souvenirs sont doux, je les chéris tant. Mais l'avenir aussi est bien trop tentant. Faut que tout me réussisse. Wa jig wa 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 jig wa wa jig wa 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 jig wa 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 jig wa wa jig wa 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 wa. So the way it waffa, let's get it. So the way it waffa, let's get it.
Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous?
Oh,
petite voix sensuelle.
Pour cette nouvelle émission.
J'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes nombreux, ça fait énormément plaisir. Vous êtes bien sur la radio Mon Paris FM, bien évidemment, présenté par le studio KB et Craig. C'était mieux avant, ou dois-je dire,
aujourd'hui c'est comment? Vous êtes bien en présence de Noé. Comment est-ce que ça va, Noé?
Très, 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 très bien. Très détendu aujourd'hui, puisque il faut se détendre pour l'émission qui
va arriver. Ah, il faut se détendre? Ok. Donc en fait, juste avant ça, il faut écouter quand même une petite playlist chill.
Exactement.
Ok. Avec nous aujourd'hui, Camélia. Comment est-ce que ça va, Camélia?
Écoute, ça va très très bien. Je suis très contente d'être de nouveau parmi vous. Pardon.
Oui. Bah, nous aussi, on est très contents.
Très contents.
Ouais. Bonjour, Oussoufa, notre invité spécial. Comment est-ce que ça va?
Ah, ça va très bien, et vous?
Bah écoute, très très bien. Ça va?
Oui.
T'es à l'aise?
Oui, parfait.
Merci, ça me rassure. Okay. Avec nous, Benoît. Comment est-ce que ça va, Benoît?
Hello la team, ça va toujours bien. On est en pleine forme aujourd'hui.
On est en pleine forme?
Ouais.
Ça, c'est le soleil, ça, je pense.
Moi, vous inquiétez pas, on va nous le retirer dans quelques jours. Là.
Ah ok, d'accord, on va être puni en fait, c'est ça qu'il faut me dire. Avec nous, Cam, comment est-ce que ça va, Camille?
Mais il fait beau, il a dit Ben, hein. Il fait beau.
Il fait beau.
Il fait beau. Ça fait du bien,
Ça fait du bien. Aujourd'hui, la thématique Noé. Tu veux l'introduire ou tu veux que je le fasse?
Non, mais c'est une thématique qui va faire mal aujourd'hui, qui va piquer.
Non, qui va faire du bien, je pense.
Oui, mais peut-être certains égos qui vont être touchés, ça, voilà la fierté
la
qui peut être touchée.
Ouais.
Mais en ces mois bénis, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui nous allons parler de la guerre des sexes.
Parce qu'aujourd'hui on est le 8 mars.
Exactement, et pour rappel, le 8 mars, qu'est-ce que c'est, Wafa, dis-moi?
La journée des droits internationaux de la femme.
Exactement.
Et je pense que justement la thématique qu'on va aborder va peut-être soulever certaines choses et peut-être même guérir certaines personnes, je dirais.
J'espère, donc écoutez attentivement. En compagnie, soit un homme, une femme. En fait, il faut qu'il y ait les deux dans l'émission.
Mais c'est ça. En plus, là, on est trois, on a égalité. Hein.
Exactement.
Est-ce qu'on peut dire qu'on a respecté la parité?
Mais
tu as le droit de dire. Ouais, c'est
parfaitement.
Vrai.
Parfaitement. Donc voilà, prenez chips, un petit coca, de
non,
l'eau.
Non, des fruits peut-être. Pourquoi
mais
coca?
En fait, en vrai, rien. Ça dépend à quelle heure, ça dépend à quelle heure on l'écoute. Mais coca, c'est la base. Tout le monde.
Ouais, non, moi je boycotte. Je disais donc, par rapport à cette thématique, je pense qu'on va faire un premier tour de table. Je vais laisser tous nos chroniqueurs se représenter parce qu'aujourd'hui, on va être six. Vous allez entendre six avis différents normalement.
Yes.
Donc, je vous laisse vous présenter et aussi me dire, quand je vous dis guerre des sexes, quel est le premier mot, la première émotion qui vous vient en tête? Je commence par toi, Cam.
Guerre des sexes?
Ouais. Déjà, tu te présentes. Ouais. Avec tes passions, ton âge, ton prénom, et après tu le dis ton premier mot.
Cam, 28 ans.
Ouais.
Passion.
Archiviste, passion politique, manga, jeux vidéo, débat.
Voilà.
Un peu les réseaux sociaux aussi de temps en temps.
Ouais.
Voilà, en gros.
Ok.
Et l'histoire quand même, parce que je suis quand même historienne de base. Mais passons.
Donc
pour moi, guerre des sexes.
Mm-hmm. Le premier mot,
Pour moi, féminisme.
Ok, c'est pas mal du tout. Benoît.
Hello la team, du coup moi c'est Benoît, réalisateur à temps perdu, chroniqueur MMA également à temps perdu, passionné par l'histoire, les sports de combat et un peu bien évidemment de culture, de musique et de R&B.
Mm-hmm.
Guerre des sexes en un mot,
ouais.
Si je dis pas de bêtises. Pour moi guerre des sexes, je dirais manipulation.
Manipulation,
Ok,
là voilà. Là, les termes ils sont plutôt pas mal. Noé commence un petit peu à être jaloux. Oussoufa, je te laisse te présenter et nous donner un mot.
Alors, je m'appelle Oussoufa. Je crée du contenu de vulgarisation scientifique par rapport à la psychologie sur Internet.
Ouais.
Et si je devais parler de la guerre des sexes en un seul mot, je dirais intérêt. Parce que d'un point de vue purement scientifique, c'est un sujet qui est très intéressant.
Oh my god.
Yes,
en fait, j'ai le seum parce qu'on est à la fin, toi et moi.
Je pense pas que je vais dire quelque chose.
Non, moi aussi, on va directement passer à la suite.
Bah ouais, hein.
Camélia, je te laisse te présenter et me dire un mot, s'il te plaît.
Donc du coup, moi, c'est Camélia, j'ai 27 ans. Mm-hmm. Je suis passionnée de voyage, de développement personnel, de santé mentale. D'ailleurs, je viens de lancer mon premier podcast.
Tu t'appelles comment ?
Wow, c'est quoi ?
Sodage Experience, qui du coup traite de développement personnel, de santé mentale, de réalité qu'on a dans nos relations, etc. Mm-hmm. Je vous invite à aller écouter ça, bien
ouais,
sûr.
On va mettre ça en description.
Mmh. Et moi, si je pense à un mot, quand je pense à la guerre des sexes, je pense au mot rivalité.
Oh, tu vas voir que génial. Mon mot, il y a un truc.
Il y a une connexion entre moi.
Je sais, on est samoise. Noé, je te laisse te présenter et me dire ton mot.
Noé, 27 ans, bientôt 28.
Ça va te faire du bien.
Non, mais ça pique. Hein.
Pourquoi ?
Ça pique un peu. Écoutez, passionné, cinéma, radio.
Ouais, podcast.
podcast, manga, et de toute façon, à peu près tout ce que vous avez dit, hein, tout ce que vous avez dit, ça me passionne.
Voilà. Ah ouais ?
Comme ça,
tu prends
comme
tout ça,
ça c'est, ouais, je prends tout, ça me passionne. Et guerre des sexes en un mot, franchement. Mm-hmm. Je rejoins Benoît, donc manipulation, ça me parle beaucoup.
Yes.
Et je dirais, pour mettre un truc bien, mm-hmm, misogynie. Allez, ouais, c'est gratuit.
C'est un parti pris. Oui. c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, moi, je vais me présenter, donc je m'appelle Wafa, j'ai 30 ans, bientôt 31, et je les accepte avec fierté. Je suis passionnée par la mode, le débat, les voyages et je pense aussi beaucoup le développement personnel avec la santé mentale. Si je devais dire un mot, au début j'allais dire équité, mais on va revenir sur ça, donc je dirais peut-être vision, parce que pour moi la guerre des sexes c'est vraiment une question de point de vue et ça va être super intéressant à voir. Noé, je vais me tourner vers toi, je vais te demander de me faire l'introduction du récap historique qui va être assez conséquent.
Bien
aujourd'hui.
Sûr, pas de souci, pas de souci. Écoutez, je voulais faire un petit récap. L'opposition entre les hommes et les femmes, mm-hmm, en France est souvent donc instrumentalisé par différents acteurs politiques, médiatiques, économiques, bien évidemment, pour servir des intérêts donc on va dire particuliers, hein, au détriment du dialogue et de l'égalité réelle. Mm-hmm. Donc on va commencer la petite intro en parlant principalement donc des conséquences que justement tout ça peut engrainé en fait. Et
oh.
Enfin, je te laisse donc commencer.
Tu me donnes la main.
Je te donne la main.
Alors en fait, c'est un récap que je voulais assez complet pour que chacun puisse prendre la parole juste sur une thématique qui le passionne.
Exactement.
Donc là, c'est très rare, mais ça va être un petit peu un récap le plus global possible.
Exactement.
Un petit peu comme un exposé finalement. On va commencer peut-être par parler de la polarisation médiatique et politique. Donc en fait, c'est vraiment divisé pour mieux régner, si je dois résumer ça comme ça. Pendant de nombreuses années, on l'avait beaucoup sur les médias, je pense à la radio, les journaux, la télé. Et aujourd'hui, on le voit encore plus à travers les réseaux sociaux. Je pense notamment avec le boom qu'on a pu avoir avec le Covid. On en revient toujours au Covid,
ouais,
et à la thérapie, moi je vous le dis. That's a reality.
Eh oui.
Et c'est vraiment quelque chose qu'on a pu constater de manière assez phénoménale. Donc depuis Covid, on a beaucoup plus de temps pour parler et parfois pour se penser intelligent, sans aucun jugement de valeur. Non, vraiment, il n'y a aucun jugement de valeur. Non, il n'y a aucun jugement de valeur dans mes propos. Je me permets une petite parenthèse, c'est parce que parfois on se permet de prendre la parole avec un micro sans avoir de connaissances. C'est pour ça que je disais ça.
Mais c'est terrible.
C'est une réalité.
C'est la réalité.
Et en fait, le problème avec les médias et les réseaux sociaux, c'est qu'on va vraiment mettre en avant des discours très, très extrêmes. Parce
ouais.
que, soyons honnêtes, quand on est sympa, bienveillant, on swipe. Donc, forcément, pour que les gens ils restent devant la télé, qu'ils achètent les journaux, qu'ils restent et qu'ils consomment les réseaux sociaux, forcément, il y a cette envie de pousser à l'extrême. Et ça, c'est
voilà.
propre un petit peu à toute communauté. Donc là, on va notamment opposer un féminisme radical. Certains le disent comme ça, même si pour moi, on va devoir le redéfinir. par rapport au masculinisme qu'on voit de plus en plus émerger ces dernières années.
Ouais.
Et il faut dire aussi une chose, c'est que la guerre des sexes, ça vend. Après
ça,
ça vend très très bien.
Non,
on est quand même dans une société assez bien capitaliste.
Oui,
donc
oui,
si je te dis que ton bonheur passe par l'achat,
Oui, non mais enfin, je pense qu'on va.
On va avancer.
On va bien avancer parce qu'il y a énormément de choses à dire.
Après ça, j'ai aussi envie de parler en fait de la conséquence de tout ça. En fait, la radicalisation,
exactement,
elle va apporter la création de deux camps distincts. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est très difficile, c'est juste d'être neutre. de dire bah je sais pas, par exemple, quand juste on sait pas, ou de dire j'ai pas envie de prendre de parti. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est très 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 mal vu, en tout cas en ce qui concerne la guerre des sexes. Pour le deuxième point, j'ai quand même envie de parler du féminisme qui peut parfois être déformé. Je pense que le souci, là, c'est vraiment mon avis. Après ça, je reviendrai sur ce que
moi,
j'ai pu avoir comme recherche.
Je suis un peu d'accord aussi.
C'est que, en fait, le féminisme n'est pas unique.
Exactement.
Il y a une vraie pluralité.
Il y a deux parties aussi, j'ai l'impression, sur le féminisme.
Ouais. Mais moi, je pense qu'en fait, la pluralité, vu qu'elle n'a pas été mise en avant de manière volontaire, comme je te disais, par rapport à la volonté, c'est de créer deux extrêmes et donc deux pôles.
Exactement.
Forcément, il y a un illogisme qui va se créer.
Exactement.
En disant, mais vous n'êtes pas logique, dans ce même groupe-là, il y a des débats.
C'est ça.
On est d'accord.
Ouais.
Mais c'est le propre même de chaque communauté. Forcément, il y a des scissions à l'intérieur.
C'est...
Et on est unique, donc...
C'est normal, en fait. Mais bon.
Passons. Après ça, en fait, donc il y a cette question de féminisme unique et ou pluriel qui va s'opposer avec le même sac du côté masculin.
Exactement.
En mode, tous les hommes sont toxiques.
Exactement.
Et vu qu'on ne veut pas nuancer, ça fonctionne très bien. Il faut le dire, sur les réseaux sociaux, ça fonctionne très bien, ça crée de l'audimat.
Ouais.
Donc en fait, là, on se retrouve avec une conséquence qui est plutôt simple. C'est au lieu d'encourager un discours ouvert, avec une volonté de dialogue et d'écoute, là, en fait, ça va être chacun se sent attaqué par l'autre. Et donc, quand on est attaqué, on est sur la défensive.
Tu l'avais ? C'est la meilleure carte, celle-ci.
Au loup-garou, je ne suis pas sûre. Mais donc voilà, ça montre à quel point il y a des tensions et à quel point, finalement, pour moi, c'est mis en place et c'est vraiment bien réfléchi. Tu veux prendre la suite ou tu veux que je continue ?
Mais t'es en roue libre, je te suis. De toute façon, en fait, c'est incroyable ce que tu dis, la manière dont tu le dis.
Il n'y a pas de souci. Après ça, en fait, donc, je vous ai parlé du féminisme, donc forcément, en face, on va avoir une montée du masculinisme et cette volonté, en fait, de se réapproprier les codes masculins de manière plus générale. Et je pense que la question qui s'est posée, c'est vraiment comment être un homme, comment être un bon homme.
Un bonhomme. Ouais, faut le dire, n'ayons pas peur des mots.
C'est
comment
ça.
Être un
et comment ne pas tomber dans un extrême et se reconnaître quand même, genre avoir une connexion avec ces valeurs qui peuvent être mises en avant.
Totalement.
Et je pense que vraiment, c'est un cheminement autant chez les hommes que chez les femmes, genre d'avoir une mouvance où toi, tu arrives à te reconnaître dans tout ça.
Bien sûr.
Et tu arrives à te construire aussi à travers tout ça. Donc voilà, après ça, forcément, on va avoir l'exploitation économique de l'opposition.
Oui,
on a dit capitalisme, on est là pour faire de l'argent.
C'est clairement devenu un business aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des mots.
Oui. D'ailleurs, il me semble que Benoît, il va tout à l'heure aborder la question des coach love, des formations pas du tout gratuites.
Oh, génial.
T'inquiète.
J'espère que tu dédicaces au GOAT.
J'espère qu'on pourra dire certains noms quand même. J'en ai deux, trois.
Le roi de l'Irlande. On ne va pas appeler le roi de l'Irlande.
J'aime bien les rêves.
Parfait.
Donc voilà, ça, j'ai même pas besoin,
besoin de
beaucoup en dire, parce que ça soit sur TikTok, sur
respect
YouTube.
Respect à nos amis irlandais, bien évidemment.
C'est important de le dire. Donc il y a cette volonté quand même de créer du business et toujours plus de business, parce que plus personne elle est dans un mal-être profond, plus je pense on peut générer de l'argent. C'est extrêmement triste et c'est dégueulasse.
Mais c'est la pure vérité.
Mais
c'est la pure vérité.
On est d'accord. Donc pour terminer, je pense qu'on pourrait vraiment parler de la question.
Qui profite tout ça.
Parce que nous, on profite pas. Moi, j'ai aucun intérêt, j'ai aucune action.
Tous les jours. Nous, on sort les armes tous les jours.
Ah bon ? Non. On fait pas la guerre. L'amour ?
Guerre des sexes. On fait la guerre. Je suis désolée.
Mais en fait, c'est vrai que pour cette émission-là, je me suis vraiment posé la question de... en fait, les classes populaires et moyennes, elles subissent tout ça. On est d'accord.
Exactement.
Et pour moi, plus on manque de moyens, que ça soit intellectuel ou financier, plus c'est difficile et plus on est sur une défensive.
On n'a pas le choix.
Maintenant, donc, à qui profite réellement cette division ? Tu le dis ?
Société.
Mais qui d'autre ?
La société.
À l'élite. Moi, je dirais même plutôt à l'élite. De manière générale, tu as dit société, je pense que tu pensais au système, peut-être.
Mais bien sûr. Non, mais totalement, de toute façon.
Système. Il n'est pas magique.
C'est système.
Ah ?
Qui nous aime.
Ah bah voilà. Et oui, il faut dire. Donc ouais, je pense que vraiment, c'est une question de classe, finalement. Et là, pour le coup, ouais, les élites, elles ont une certaine mainmise parce qu'elles, elles sont en dehors de cette guerre. Et ça, il faut le dire.
C'est, ils l'ont créé, ils ont mis les ingrédients pour qu'on continue.
Hunger Games.
Et, puis, et nous, on continue, quoi.
Mais il faut pas, justement.
Et certains en profitent aussi.
Ah ouais ? T'as des actions, toi ?
Il y a ceux qui sont là malgré eux, j'ai l'impression.
Ouais, ouais.
T'en as d'autres qui profitent.
Qui créent des formations payantes.
Qui créent des formations payantes.
Mmh.
Et malheureusement, ceux qu'on entend le moins, c'est ceux qui essayent de ne pas être dans la division, mais d'être dans le truc de. Vous savez, il y en a qui sont comme ça, d'autres comme ça, d'autres comme ça, mais on s'entend pas eux.
Bah là, on est 6. Je te promets, on va nous entendre.
Bah là, je l'espère bien. Donc. À vous de partager et vraiment là on va essayer de parler en long et en large.
C'est ça,
dire,
c'est ça. Donc on a dit l'élite, bah forcément ceux qui sont derrière les médias. Et après la question finalement qu'on va peut-être pouvoir se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on sort de tout ça ? Parce que c'est très très bien de faire des constatations, mais
bien
comme
sûr.
Le dit souvent Benoît, ça ne sert à
rien.
Donc là l'idée c'est de savoir, bah ok, on a fait le constat, on a compris le mécanisme. Mais on va devoir avoir cette réflexion de comment est-ce qu'on sert de ça, comment est-ce qu'on essaye de mettre de côté complètement les discours d'un extrême ou d'un autre.
Exactement.
Vouloir vraiment écouter l'autre, pas entendre vraiment, prendre le temps d'écouter et peut-être écouter aussi les traumas qui peuvent être derrière.
Simplement.
Simplement. Camille, je vais me tourner vers toi. Là, j'ai beaucoup parlé. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde, vraiment. S'il vous plaît, restez avec nous.
C'était important. Sachez que c'était important de dire tout ça. Vraiment.
Comme ça, voilà, les grands traits sont quand même brossés. Et pour ce premier podcast, je pense qu'on va peut-être commencer par un jeu. C'est très, très rare.
Ouais, il faut,
mais
il
voilà,
faut,
ça
il
va
faut.
Te détendre un petit
ouais,
peu.
Il faut, c'est important.
Tu sens qu'on est tendu, là ?
Alors, pas vous. Moi, je ne parlais pas de vous. Pourquoi tu te sens tout de suite visé ? T'as vu le discours d'extrême tout de suite ? La preuve en image.
Non, vraiment, je pense que pour cette émission, on a besoin de jeux. On
ouais.
a besoin de d'abord détendre les cerveaux ouais. avant de...
Promis, j'ai dit que j'étais pas dur.
Ok.
Ouais, je sais.
Donc,
Cam,
on t'écoute. On laisse la main à Camille, vas-y.
Alors, on va commencer par des petites définitions.
Allez.
Pour vous, qu'est-ce que la parité ?
Oh.
En fait, moi, j'aime pas trop cette question.
Ouais.
Mais c'est pas grave.
La définition de la parité.
La définition ?
Oui, quand je dis qu'est-ce que la parité, c'est la définition que vous faites de la parité.
Pour moi, c'est...
Pour vous, c'est quoi ?
Alors, pour moi, c'est un synonyme de l'égalité.
Okay.
Ça veut dire que, par exemple, je sais pas, les femmes, elles ont le droit d'avoir 3 jours de repos par mois parce qu'elles ont des règles douloureuses. Bah, les hommes aussi. Genre, égalité. Camélia, pardon. On arrête ça tout de suite. Ça m'arrive de les confondre, mais oh, ils ont des prénoms qui se ressemblent aussi.
C'est vrai.
En fait, j'avais le même mot en tête.
Écopiteuse.
Non, parce qu'on a la même vision, je pense.
Siamoise, ok. Oussoufa ?
Alors, dans mon cas, pour moi, la parité, ça serait le fait qu'on va partager les ressources de manière équitable. C'est-à-dire que, on a parlé de la parité, par exemple, dans le cas du gouvernement, d'avoir autant de ministres hommes que de ministres femmes.
Ouais.
Il y a des sièges, il faut que ça revienne autant aux hommes qu'aux femmes.
Mais ça, c'est égalité ou équité ?
Non, pour moi, ça serait la définition de la parité.
Ok.
Oui.
Mais non. C'est bon, il a tout dit.
T'as vu ? J'aime pas trop.
Oui.
Benito ?
Non, mais il a volé ma réponse, mais...
on va pas faire ça toute l'émission. Moi, je
plus sérieusement, en réalité, moi, parité, j'entendais part égale, en fait. De manière bête et naïve.
Oh,
c'est le terme que j'entends
hein.
derrière
ouais,
le terme de parité.
Non, bah, au final, bête,
moi,
naïf,
honnêtement, hein. je pense que ce que Ben vient de dire, c'est un peu plus ça, en fait.
Ah ouais ?
Parce que, du coup, la parité, c'est en effet l'égalité stricte entre les hommes et les femmes, mais dans des domaines spécifiques.
Ah,
par exemple, en politique, donc comme le disait Oussoufa tout à l'heure, par exemple, dans les sphères politiques, donc à l'Assemblée nationale, où il y a un quota, j'aime pas ce terme, mais c'est un fait, il y a des quotas, entre guillemets, de femmes dans la politique, au travail et dans les instances, entre guillemets, du pouvoir, donc tout ce qui est juridique, etc. etc.
Ok.
Donc, contrairement à l'égalité des sexes, la parité impose une répartition 50-50.
Et l'égalité des sexes, non. Très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça dit. Ok. Alors, moi, je pense que pour cette première émission... Oui, Noé, dis-le.
Je vais
commencer. C'est extrêmement rare.
Fois, parce que tu termines tout le temps. Et là, c'est
je termine
très,
en
très
2
beau.
Minutes 5.
Exactement. Bon, là, pour une fois, tu auras ton temps. Mais je vais quand même timer, je te le dis. Hein, je regarde l'horloge quand même.
3, 2. Alors,
c'est parti.
Pour moi, la guerre des sexes, en fait, c'est une guerre qui est très, très intéressante. Comme on a pu le voir, elle est économique. Elle est aussi, je pense, beaucoup culturelle. Donc, c'est quelque chose qui est transmis aussi de manière volontaire ou involontaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de déconstruire les blessures qu'on peut en fait vivre à travers tout ça. Parce que vraiment, ma vision, la guerre des sexes, soit elle est instrumentalisée, donc genre de par le système, soit aussi, bah, en fait, c'est juste des blessures qu'on n'a pas su soigner correctement. et donc qui ont juste pourri de l'intérieur. Et je dirais qu'en fait, le vrai souci de notre société, c'est qu'on ne sait pas s'exprimer correctement, dans le sens où parfois, on va vivre une injustice. Et concrètement, par exemple, quand une femme, elle se fait agresser, moi, ça m'est déjà arrivé, et dans le wagon, je me fais agresser par un homme, il y a d'autres hommes dans le wagon, mais c'est tout simple, hein, l'équation, elle est toute simple. Il m'agresse, aucun homme ne défend, aucun homme le reprend. Donc, et je sais que ça ne va pas plaire, mais forcément, moi, ça va vite, donc il le cautionne. Et pendant longtemps, je comprenais pas pourquoi est-ce que les hommes ne se désolidarisaient pas ou ne prenaient pas la parole ou ne faisaient pas quelque chose, en fait, tout simplement. Donc voilà, moi, c'est vraiment mon point de vue par rapport à la question. Je pense aussi que la peur, elle génère énormément d'outils à cette guerre des sexes, parce que clairement, on a l'impression que... il y a une injustice et que chaque côté vit sa propre injustice et que, par exemple, la société, l'éducation et même les familles, elles ne vont pas forcément blâmer les agressions. Et donc, s'il n'y a pas de blâme et qu'il n'y a pas de conséquences, on se dit que c'est sans doute cautionné. D'un autre côté, forcément, là, je vous ai parlé du point de vue féminin. Du point de vue masculin, j'ai l'impression que les hommes, ils se sentent attaqués et émasculés parce qu'en fait, on leur retire leur rôle de... la possibilité qu'ils puissent protéger parce qu'on ne leur a jamais appris en fait à réagir et surtout qu'on est quand même dans une société où si un homme par exemple va réagir, va défendre, il n'est pas assuré que derrière ça se passe bien pour lui, tu vois, il peut très bien aller en prison ou je sais que c'est déjà arrivé, un homme défend et en fait finalement la femme le reprend ou le couple le reprend et il se dit en fait j'aurais peut-être pas dû la défendre parce que finalement peut-être que c'est pas mes affaires. Donc ça, c'est ma vision. Et je pense qu'en fait, le problème, c'est que on n'a pas forcément le temps de prendre en considération ce que l'autre vit. Et on a cette rapidité à essentialiser en se disant si personne ne réagit, alors il cautionne. Alors que, en fait, non, peut-être que les personnes, elles ne sont pas forcément au fait. Peut-être qu'elles n'osent pas. Peut-être qu'elles ont déjà osé, mais qu'elles ont pu avoir des soucis judiciaires ou autres derrière. Et je pense vraiment que chacun a ses peurs. Et en fait, ces peurs-là sont vraiment liées à l'émotionnel qui va finir par prendre le dessus. Donc en fait, on va rester que sur de la défensive. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, les solutions qu'on peut apporter, ça va peut-être être prendre du recul déjà sur ce qui se passe, arrêter d'essentialiser les deux groupes, donc les hommes et les femmes, c'est pas deux groupes qui doivent constamment s'opposer. On doit aussi responsabiliser l'agresseur et le système, et non pas le groupe dans lequel la personne a fait l'action, puisque je sais qu'il y a des femmes aussi qui peuvent agresser, souvent c'est peut-être plus psychologique, et on va aussi essentialiser. Mais donc voilà, vraiment responsabiliser l'agresseur ou la mentalité qui peut aussi le protéger. Et je pense qu'on doit aussi avoir tous une volonté commune d'avoir une société beaucoup plus sécure pour chacun d'entre nous. Qu'un homme, il se dise pas, si je suis seule dans une pièce avec une femme, elle peut mentir et dire que je l'ai agressée. Et qu'une femme, quand elle est dans un métro, elle se dise pas, si un agresseur m'attaque, aucun homme ne va réagir. Et tout ça, finalement, ça va passer par le fait d'apprendre à écouter et de pas le prendre personnellement. Donc voilà pour mon point de vue sur la guerre des sexes. Et j'ai fait 3 minutes 40.
Franchement, pour le coup, autant passer à la fin.
Non,
merci, t'as raison, parce qu'au final, je pense qu'on va tous beaucoup parler. Et j'ai même envie de surenchérir en fait sur ce que tu viens de dire.
Et tu ne peux pas, parce que c'est à Benoît la parole.
Benoît.
Non, c'est quoi, t'as une minute, t'as le droit à une minute, là, voilà.
Non, on va laisser Benoît, vas-y Benoît, je t'en prie.
Mais merci. Est-ce que je peux passer mon tour pour une raison? Je pose la question parce que j'ai vu beaucoup réagir sur certains propos de Wafa et j'aurais voulu avoir ton avis parce que moi aussi j'ai un avis sur la question et du coup j'aurais voulu entendre le tien.
Quelle belle masculinité, j'ai vu ça.
Dans la mesure où il y a eu plusieurs prises de parole, t'aimerais avoir mon avis sur quel point en particulier?
Je sais que par exemple elle a cité notamment l'exemple de l'homme qui a peur de se faire qui a peur d'être accusé de accusé à tort, comment on appelle
oui,
ça
diffamation.
De subir une diffamation.
Ouais. Ok, quand je suis venu ici, j'ai préparé un sujet purement scientifique rapport à cette histoire de guerre des sexes.
Bien sûr.
Par contre, pour cette histoire des fausses accusations, là, ça va purement être mon point de vue.
Dis-moi.
Et je pense qu'il y a quand même un truc vraiment monté de toutes pièces dans la tête des garçons. J'ai du mal à comprendre cette histoire de les fameuses fausses accusations, d'où est-ce que ça vient? Il n'y a absolument aucune réalité mathématique, aucune réalité statistique, il n'y a absolument aucune raison que cette croyance existe. Et donc, à chaque fois qu'elle est mentionnée, c'est pour ça que tu as dû me voir réagir.
Ok. Non, ça, c'était intéressant. Ça tombe bien que tu réagisses comme ça.
Incroyable.
Parce que là, du coup, ça fait écho avec mon vécu personnel. Du coup, pour le coup, je l'ai vécu. Et j'ai pas été le seul à le vivre. Et du coup, c'est vrai que parfois, quand tu t'es un peu comme les personnes qui vivent des agressions ou quoi que ce soit, tu vas tout de suite sur Internet pour voir qui a vécu la même chose que toi et tu te rends compte que il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là qui ont vécu cette même expérience, c'est-à-dire de subir des fausses accusations, etc. Et par moments, ça a été fait par des femmes, tu vois. Et moi, ça m'est arrivé deux fois dans le cadre de mon travail. Et Dieu merci, j'ai été protégé deux fois par des femmes. Mais du coup, c'est une réalité qui existe. Après, moi, je pense personnellement vraiment sur ce cas spécifique que c'est une réalité que beaucoup d'hommes n'osent pas extérioriser et dire « c'est une impression » parce que ça existe. Et je trouve que malheureusement, on ne fait pas d'études là-dessus. Je trouve que tu as parfaitement raison de dire qu'il n'y a pas de réalité scientifique et statistique. J'ai l'impression qu'on ne les fait pas, en fait. Moi, pour ma part, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il y ait une étude, par exemple, sur le nombre d'accusations, de dénonciations calomnieuses qui existent en France, par année, par exemple, et quelles sont les statistiques faites que dans ces statistiques-là. Quel est le pourcentage d'hommes et de femmes qui ont été condamnés pour diffamation? Et du coup, ça permettrait vraiment de casser un peu ce mythe qui est que oui, en tant qu'homme, tu peux subir de la diffamation, de la dénonciation calomnieuse sur une femme. Parce que moi, c'est vrai que j'ai un peu ce spectre à l'esprit pour l'avoir vécu à plusieurs reprises. Je me dis, ok, je sais que dorénavant, mon interaction dans le cadre du travail, par exemple, avec des femmes ou dans d'autres situations, je sais que je vais devoir le cadrer. Après, ça ne veut pas dire qu'en général, j'ai une méfiance vis-à-vis des femmes, parce que le sujet, c'est comme la guerre des sexes, et je ne suis pas là pour dire que truc, mais c'était vraiment
C'était une petite parenthèse, finalement.
C'était une petite parenthèse, parce que je t'ai vu réagir, et du coup, je voulais avoir ton avis, mais moi, je sais que voilà, je pense que ce serait bien qu'il y ait quand même une analyse sur ce sujet-là, et ça permettrait peut-être de fixer, est-ce qu'on est dans l'ordre du mythe, si oui, sinon... Pourquoi, si c'est un mythe, pourquoi il est là? Et si c'est une réalité, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus, tout simplement?
Moi, je te redonne la parole, Oussoufa, juste avant de te la redonner, Ben, pour que tu puisses nous faire ton argumentaire.
Ok, donc là, je vais sur l'argumentaire.
Là, je lui laisse juste répondre et après, on passe sur ton argumentaire.
Déjà, je voudrais vraiment féliciter le fait que ton premier réflexe a été de te poser la question, est-ce qu'il existe une réalité mathématique, une réalité statistique qui va venir étudier ces chiffres-là? Et en fait, la réponse, elle va peut-être te rassurer. Elle existe. Okay. Là, je ne les ai pas avec moi parce que ça ne fait pas partie du dossier que j'ai préparé.
Bien sûr.
Mais en faisant des simples recherches, tu vas pouvoir avoir statistiquement le nombre d'accusations qui ont été considérées comme étant vraies, le nombre d'accusations qui ont été considérées comme étant juste un non-lieu, c'est-à-dire que la justice a considéré, on n'a pas les éléments de pencher plutôt pour ou plutôt pour contre, etc., etc. Ces chiffres existent. Après, bien évidemment, attention, les chiffres ne sont pas une réalité divine.
Ça reste une base.
Les chiffres sont mesurés par des outils, tous les outils sont faillibles, mais pour l'instant, ces chiffres, dans la manière dont ils ont été travaillés, on peut considérer quand même qu'ils sont fiables.
Ok.
Donc, cependant, là, on parle de réalité statistique, c'est une réalité qui concerne les grands nombres. Ça ne veut pas dire que, dans le cas par cas, je ne dis pas que ça n'est jamais arrivé. Je dis juste que le simple fait qu'à chaque fois qu'il va y avoir une accusation, les garçons vont avoir le réflexe de dire « Ah, mais c'est potentiellement une fausse accusation », le problème, c'est que quand tu regardes statistiquement les accusations qui sont vraies, mais qui n'ont pas été... Pris en compte, qui n'ont pas pu recevoir justice, et les accusations qui sont considérées comme étant, c'était une fausse accusation, on se rend compte que ça n'a absolument pas du tout la même proportion. Donc le fait d'avoir ce réflexe-là de crier à la fausse accusation, au final, ça dénonce plus quelque chose, c'est la personne qui va tenir ce genre de propos.
Ok. Bon, ça répond très bien.
Merci pour ce très bel échange. Benoît, je te laisse reprendre la parole et nous parler un petit peu de ta vision des guerres des sexes.
Alors, laissez-moi prendre mes notes, parce que mon ordinateur m'a lâché. Donc, moi, sur la question de la guerre des sexes, j'ai écrit un petit quelque chose à l'image d'un enfant naïf qui se remémore ses années à la maternelle. Oh. Donc, de la maternelle jusqu'au lycée, les hommes et les femmes se disputent sur qui est le meilleur des deux sexes. Les femmes mettent en avant leur capacité à être mieux organisées, mieux ordonnées que les hommes. Quant à eux, les hommes mettent en avant leur force physique, leur logique. Bref, en somme, chacun veut prendre la couverture que pour lui. Entre chamaillement et humour, parfois clash, ces questions restaient bon enfant, dans la mesure où aucun des deux n'était dans un extrémisme où il percevait l'autre comme un inférieur. Notre société, qui garde certaines traditions héritées de son ancien modèle patriarcal, se voit aujourd'hui sans repère. La société, n'arrivant pas à trouver des solutions aux problèmes, a décidé de les galvaniser. Alors ça, c'est un peu ma perception du sujet, parce qu'en réalité, on en parle réellement depuis moins d'une dizaine d'années, si je dis pas de bêtises, et surtout avec l'essor des réseaux sociaux. Comment je perçois la guerre des sexes? Moi, au début, On va dire que je l'ai un peu trouvé ça, je l'ai un peu pris ça à la, un peu à la rigolade, mm-hmm. dans le sens où c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on était en train de dépeindre un portrait des deux genres, toujours un peu plus, un peu dans le cliché, mm-hmm. donc avec des gros slogans. Tous les hommes sont des agresseurs, toutes les femmes sont des michetos, ce genre de slogans un peu débiles, etc. Et au début, avec du recul, je pense que je prenais ça vraiment un peu avec légèreté. Je me suis dit, bon, on ne peut pas essentialiser ni généraliser. Effectivement, il faut dénoncer, mais en faire tout un pan et dire que tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ça, pour moi, ça n'avait pas de sens. Mm-hmm. Sauf que je me suis rendu compte, avec l'essor des réseaux sociaux, et notamment après la période Covid, ça s'est vraiment matérialisé et c'est devenu une question omniprésente, même sociétale. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup surpris au début dans cette question de la guerre des sexes. Et j'ai constaté, en fait, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a eu un essor. Déjà, c'était l'arrivée des comptes dédiés au couple.
Ouais.
Voilà. On a eu vraiment cette question du couple qui est apparue, où les gens exposaient un peu leur couple. Mmh. Et j'ai l'impression que ça a commencé à créer du coup déjà une vision des interactions entre les hommes-femmes, mmh. entre l'homme et la femme. Or que ça reste des couples lambda, c'est-à-dire qu'on a un couple, moi et mon épouse, ici mmh. présente d'ailleurs.
Coucou.
qu'on décide de montrer notre lifestyle et du coup ça devient un modèle à suivre. Ça devient un modèle à suivre et tous les autres modèles à côté... ne sont pas des bons modèles. Et du coup, dans ce modèle-là, il va y avoir mon comportement mmh. qui va servir de référent masculin et le comportement de madame qui va servir de référent féminin. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'ai l'impression que à travers les réseaux sociaux, du coup, il y a deux modèles qui se sont créés et dès lors qu'on ne rentrait pas dans ces modèles-là, on pouvait être catégorisé comme étant soit une femme toxique, soit un homme toxique. C'est beaucoup plus sur la question des hommes, bien évidemment. Mmh. Avec ça, on a l'apparition des coach love.
Oui.
Donc, du coup, des coachs qui viennent nous expliquer comment... être un bon partenaire ou comment être une bonne partenaire, comment en tant qu'homme je vais pouvoir séduire un certain nombre de femmes, etc. Dédicace au roi de l'Irlande.
Oh my god.
À nouveau. Et moi, tout ça au début, je le regarde de loin et ça me paraît toujours ridicule. Ça me paraît vraiment ridicule. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est un vrai sujet de société, puisqu'en fait, les gens s'y intéressent énormément. Mm-hmm. Il y a des vrais débats là-dessus. Et surtout qu'en fait, je vois que ça apprend en fait. Par exemple, on va le citer, hein, bien évidemment.
Oui,
quand je vois quand je vois Alex Hitchen qui s'exprime sur les relations de couple,
ouais.
moi, j'ai été vraiment surpris que ça fonctionne. Et je me rends compte que sur les questions de couple, etc., il y a une vraie frustration. Pourquoi je parle du couple, sachant que le sujet, c'est la guerre des sexes, c'est que j'ai l'impression que dans cette guerre des sexes, en réalité, c'est surtout qui prend le lead dans le couple, déjà, dans, mm-hmm. dans la première structure de base, qui est la famille. J'ai l'impression que c'est qui, il y a une question de qui prend le lead. Quel est le rôle que doit jouer l'homme et la femme? Et tout ce que je vois, c'est que je perçois à travers les réseaux sociaux, surtout, c'est une volonté de, entre guillemets, de s'accaparer la manière de concevoir le lead,
oui.
et surtout de le définir et d'en faire tout un marketing. Et ça, c'est un peu mon deuxième point. Mon deuxième point, pardon, c'est le marketing du parfait méchant.
Oh.
Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, de mon point de vue, mm-hmm. sans renier un peu les réalités qu'on a au quotidien, c'est-à-dire qu'en fait, l'archétype du parfait méchant de notre société, ce serait l'homme cisgenre, plus mm-hmm. précisément blanc, mm-hmm. en réalité, mais ce serait ça, le grand méchant de notre société. Et la force de ce propos, en fait, c'est qu'il s'appuie quand même sur des réalités, c'est qu'effectivement, il y a un nombre énorme d'agressions... Il y a énorme d'agressions envers les femmes.
Ouais.
Et ça, c'est une réalité. Mmh. Et j'ai l'impression qu'on utilise un peu cette réalité, ces réalités...
À des fins politiques.
À des fins pour mettre en avant, pour véhiculer certains messages. Mmh. Et aussi pour créer de la frustration.
Okay.
Dans la société et de la frustration dans les deux camps. J'aurais voulu détailler un peu plus. Je vais pas m'attarder là-dessus. Mmh. Et je trouve qu'en fait, cette manière de faire, en fait, ça moi, je trouve personnellement que ça a différents intérêts dans notre société, dans une société capitaliste. C'est-à-dire que notre société capitaliste, je pense qu'elle a pour but, à tout prix, c'est de s'enrichir sur le dos des populations. Mmh. Et la première structure, un peu, qui permet de défendre une population, c'est la famille. Et c'était, en fait, là, je saute de plusieurs étapes. Mais ce que je voulais dire, c'était surtout que La famille reste, pour moi, la famille, c'est le socle de base de la société. Mmh. Et lorsque les deux rôles, entre guillemets, les deux genres s'entendent bien, ça permet, ça crée une certaine manière de défense, de se protéger contre toute société. Ça permet de se défendre contre toute forme d'asservissement, qu'il soit économique, politique, etc. Or, lorsque les hommes et les femmes se font la guerre, ça crée une scission. Mmh. Et du coup, de cette scission, on devient tous les deux vulnérables. Et je trouvais que le contexte, il était particulier parce qu'on est dans un contexte, et je finirai là-dessus, de perte, sur le plan économique, il y a vraiment une perte financière pour beaucoup de ménages français. Sur le plan politique, il y a une perte de liberté et de droit. Je m'explique, je regarde au niveau de la politique comment ça se fait, le fait qu'on est gouverné aujourd'hui à base de 49-3, donc en fait, il y a de moins en moins un pouvoir décisionnel du peuple, je pense, qui part. Et je trouve que c'est quand même, c'est pas anecdotique que dans une période où tu as une perte de possibilités du peuple sur différents aspects économiques, politiques, que les deux socles de la société homme-femme se fassent énormément de guerre. Je suis désolé pour cette explication un peu rapide, etc. Mais c'était, je voulais présenter un peu ça, et je trouve que pour moi, là, aujourd'hui, on est dans une situation où cette guerre des sexes, elle est très dangereuse parce qu'en fait, on est dans un niveau où les hommes et les femmes sont très vulnérables et c'est le moment le plus important d'être le plus uni possible, en fait.
Oh, j'aime bien.
Très, très bien fini.
Avec un petit peu de retard, mais t'as très bien fini. Maintenant, on va passer à toi, Camélia.
Oui, bonjour.
Je t'écoute.
Moi, j'ai pris ce sujet sous un autre angle. J'ai un peu fait un comparatif entre ce qu'il y avait avant. Ce qu'il y a maintenant.
Qu'est-ce qu'il y avait avant ?
En termes de rôle dans la société. Dans le sens où, avant, les hommes et les femmes avaient un rôle bien distinct.
Oui.
Dans le sens où la femme, elle avait un rôle plutôt maternel.
Quand tu dis avant, tu penses à quand, s'il te plaît ?
Avant...
Genre la petite maison dans la prairie, cette période-là, par exemple ou...
Oui, avant les années 80, je dirais.
D'accord, ok. C'est pour
enfin, en transition aux années 70.
D'accord, ok.
En gros, on avait du coup les femmes qui avaient ce rôle maternant, donc s'occuper des enfants, faire des enfants, s'occuper du foyer. Je généralise le truc, mais c'était le rôle de la femme. Beaucoup de femmes ne travaillaient pas. Là où les hommes avaient un rôle aussi très défini. Ils ramenaient l'argent à la maison. C'est eux qui avaient ce rôle de protecteur, autant de leur femme que de la famille. Et ils devaient avoir cette image justement de virilité. Ils devaient avoir l'image d'être quelqu'un de fort à toute épreuve. Là où la femme pouvait se permettre d'être peut-être un petit peu plus vulnérable. Donc ça, c'est l'image qu'on avait avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les rôles sont un petit peu moins définis. Je m'explique. Dans le sens où maintenant, les femmes travaillent. Donc, il y a ce qu'on appelle maintenant la parité entre les charges financières. Il y a aussi également le fait que les femmes peuvent avoir une carrière, développer leur personne et ont beaucoup plus de liberté là où avant c'était beaucoup plus restreint où en fait leur rôle était vraiment focalisé sur être mère et non pas être femme. Et donc c'est des choses qui ont changé par rapport à avant. Et là aujourd'hui les hommes, il y a toujours ce côté fort quand même, on leur demande quand même beaucoup dans la société actuelle. Mais en fait, leur rôle n'est plus du tout défini que par le travail et le statut social. Là où avant, il fallait être un tel pour avoir un nom, pour avoir le respect de tous, il fallait avoir un certain statut. Là où aujourd'hui, quand même, c'est beaucoup plus diversifié. On peut être un homme
au foyer.
Voilà, un homme au foyer, un homme avec un métier pas forcément à haute responsabilité. Et être quand même respecté, là où avant c'était beaucoup plus complexe et il y avait justement cette rivalité entre les hommes pour celui qui a le plus de pouvoir, celui... Ça existe toujours, mais c'est un petit peu plus effacé comparé à avant. Et donc du coup là, en fait, on est arrivé à une époque où les hommes et les femmes s'opposent. Je m'explique. En fait, ce côté injustice où la femme n'avait pas de liberté, ne pouvait pas travailler, etc., c'est petit à petit transformé en tension permanente entre les deux sexes. Quand je dis tension permanente, je parle notamment de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Le fait que les hommes, certains hommes, je ne dis pas tous, salissent certaines femmes. Le fait que certaines femmes, dues à leur justement expérience personnelle, disent que les hommes, c'est tous des cafards, les hommes, etc. Ça, c'est des choses qu'on a beaucoup entendues. Et c'est même des discours qu'on a pu peut-être tenir, nous, personnellement. Et ça alimente le fait que les hommes et les femmes aujourd'hui s'opposent au lieu justement d'essayer de se comprendre. Mmh. Et je pense qu'on est vraiment à un tournant actuellement justement avec l'essor de tout ce qui est question santé mentale, psychologie. Il y a beaucoup moins de tabous autour de ça. Les gens se soignent beaucoup, font des thérapies. Et je pense que ça aide beaucoup à essayer de comprendre l'autre sexe. Parce qu'en fait, les hommes et les femmes, on peut penser ce qu'on veut, on peut essayer de décortiquer le problème quand on veut. On ne pense pas pareil. Et on a des fonctionnements qui sont différents. Et pour moi, les hommes et les femmes ne sont pas faits pour se tirer dessus, ils sont faits pour se compléter. Et donc, ça paraît très étonnant que je dise ça aujourd'hui, parce que pendant longtemps, j'ai eu, dû à mes expériences personnelles avec les hommes, un discours qui pourrait être peut-être extrémiste des fois, dans le sens où moi, les hommes, c'était vraiment une vraie problématique. C'était un genre que je ne comprenais pas, dû à des comportements auxquels j'ai pu faire face. Là où aujourd'hui, en fait, je prends beaucoup plus de recul et je me dis, ok, peut-être que la personne a mal agi, mais ça ne veut pas dire que tous agissent mal. Très et bien. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière d'ordre psychologique, de traumatique. Et en fait, il faut bien dissocier le fait que nous, en fait, on a tous des expériences de vie. Mm-hmm. On a tous, peut-être qu'on a un relationnel avec un parent, par exemple un père qui est défectueux, ou avec une relation amicale, ou une relation amoureuse. Et c'est vrai que ça ne définit pas tous les hommes, enfin moi je parle en tant que femme, tous les hommes, et même les femmes inversement, ce n'est pas parce qu'un homme a une relation qui a été chaotique, que ce soit avec sa mère, sa sœur, ou une relation amoureuse, que ça fait que toutes les femmes sont comme ça, toutes les femmes sont mauvaises, ou tous les hommes sont mauvais. Non, en fait je pense vraiment qu'il faut prendre un petit peu de recul sur la question et se dire que oui, il y a une guerre des sexes. Mais je pense qu'il serait temps justement de freiner un petit peu les choses et juste d'essayer de se comprendre en fait.
T'es très très beau aussi. Hein.
Wow.
Noé.
Wow.
En plus, t'es à la fin. Force.
Wow.
Merci beaucoup. Moi, je me permets juste de rebondir sur un point. C'est sur la notion de avant-après par rapport au travail des femmes et des hommes. Moi, c'est vraiment une impression, je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression qu'en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, vu que les femmes, elles ont dû aller travailler, il y a eu un rôle, les rôles, ils ont été un petit peu ébranlés, parce qu'avec le retour des hommes de la guerre, les hommes, ils sont en mode, nous, on reprend notre place, et les femmes, elles sont en mode, ouais, mais nous, on a dû assurer les arrières. Et je pense que c'est peut-être à partir de là, peut-être que la guerre des sexes, en tout cas, qu'on a aujourd'hui, elle a peut-être pu émerger.
Les prémices,
merci, Gami. Je vais me tourner vers toi, Cam. Tu veux rajouter quelque chose?
J'allais dire que tu avais raison. Non, mais du coup, non, parce que. En fait, moi, je vous explique, de base, je suis historienne, mais mon sujet de recherche, c'était sur l'homosexualité au 19e siècle.
Oh, en Europe?
En France, à Paris, exactement.
Okay.
Et du coup, oui, j'ai dû lire des ouvrages sur les études de genre, tout ce qui est masculinité, féminité, etc. etc. Bref. Et du coup, oui, Wafa, t'as raison, c'est bien à partir de 45 où vraiment on a ce changement et ce début, entre guillemets, d'amélioration de la liberté et de l'ouverture pour les femmes. Quoi. Et du coup, quand vous regardez le droit de vote pour les femmes... voilà quoi,
45.
C'est ça, hein. C'est ça. 44-45.
Ah ouais.
Hein.
Ah ouais.
Voilà.
Ok, moi maintenant je voudrais que tu me fasses, s'il te plaît, le prochain jeu, Cam.
Prochaine définition. Pour vous, qu'est-ce que l'équité de genre? Je reviens sur votre définition personnelle.
Ah,
merci.
Définition personnelle de l'équité de genre.
Quelqu'un veut commencer? Oussoufa?
J'en ai aucune idée.
Ah ouais, Cam? Là, je t'ai vu froncer les sourcils.
Mais j'ai pas compris la question.
C'est quoi l'équité de genre?
L'équité de genre. Pour toi, qu'est-ce que l'équité de genre?
La définition.
Qu'est-ce que c'est? Je passe.
Tu passes?
C'est quoi? Je vais prendre la parole.
Ouais, bah, vas-y, je t'en prie.
En fait. Ouais, ok. Ah. Bon, bah vas-y, non.
Tu dis tu. En fait, pour moi, l'équité de genre, c'est répondre aux besoins de chaque genre de manière spécifique. et ça s'opposerait peut-être à l'égalité, justement.
Ok.
Bah, j'allais dire à peu près la même chose.
Et c'est on vraiment... copie.
Bah non, mais c'est pas de la copie, à un moment, si on a la même pensée. Mais non, mais... ouais, moi aussi, j'ai cette pensée-là de qu'en fait, au final, on essaie de trouver des solutions pour chaque genre. Ouais. Et on essaye de justement faire en sorte qu'il n'y a pas un genre, on va dire, plus au-dessus que l'autre, en fait.
C'est ça. Personne n'a d'autre...
Non, il n'y a aucune
objectif. Moi, je viens de découvrir le mot, je te cache pas.
Non, mais en fait, c'est parce qu'il y a souvent le débat équité-égalité.
C'est
en
un
fait.
Débat qu'on a eu très longtemps avec Camille.
C'est un débat qu'on a eu justement en préparant,
préparant
ce sujet.
On se toujours en plus.
Ouais, ouais, mais en fait, alors, oui, comme disait Wafa, du coup, l'équité, mm-hmm. c'est justement la, entre guillemets, la mise en place de conditions adaptées.
C'est ça.
Pour, enfin, en gros, hommes comme femmes, mm-hmm. et... puissent bénéficier des mêmes choses. Mmh. Par exemple, l'égalité salariale, etc.
Non, ça, c'est l'égalité. L'équité, c'est par exemple quand une femme, elle est enceinte et qu'elle a besoin oui. d'avoir un congé mat ouais. qui oui. soit plus long parce que son corps a besoin de revenir.
Voilà. Mais et du coup, d'où le congé
faut part, que tu aies également, dans l'équité, tu as aussi ça. L'accès aux opportunités qui doit être le même.
Bien sûr.
Okay. Okay.
C'est pour ça que beaucoup de gens confondent égalité et équité. Parce qu'en mmh. fait, la définition des deux est, en soi, quand on apprend la définition brute, mmh. c'est... différent,
ouais.
mais il y a quand même des moments où c'est très flou.
Ça se croise, ouais.
C'est sûr. Très très flou.
Bien sûr.
Donc,
je pense qu'on peut parler d'équité, par exemple, pour une fille ou un garçon qui souhaite faire de la mécanique. Je pense.
Par
que
exemple,
ça
oui,
pareil.
Par exemple, voilà, par exemple, dans les métiers, dans les opportunités, bah, comme je dis, les opportunités,
c'est ça, ouais.
okay. la vie de tous les jours, quoi.
Non, je l'avais, je pense. Hein. On
non, en vrai, votre définition était bonne, hein.
Merci.
Ouais, ça doit être ça. Ouais.
Votre définition
ouais,
était bonne.
C'est parce que t'es pas savant, moi, tu dis ça.
Mais du coup, pour vous, l'égalité, c'est quoi?
L'égalité, c'est donner la même part à tout le monde.
Ouais.
Pareil.
C'est okay. ça, hein. Vraiment donner la même part à tout le monde et essayer de pas trop manger plus que l'autre, quoi. Même si c'est un peu ça, du coup, la guerre des sexes.
Tu non. trouves ?
Bah, c'est qu'il y en a un qui mange plus que l'autre. Ou du moins, c'est on, chacun.
C'est la vision.
Chaque
Pour
clan,
moi, c'est la vision.
Oui, justement, mais chaque clan a cette impression-là.
Que l'autre, il a plus gros ventre.
Exactement.
Ok, ok. Oussoufa, tu veux rajouter quelque chose ?
Non, j'ai rien à rajouter.
Parfait. On va directement passer à ton argumentaire scientifique en plus.
Ah, celui qu'on attend, j'ai envie de dire.
Alors, ce que j'ai préparé, c'est une suite de solutions mm-hmm. que je pourrais proposer à une oh. personne qui vient me témoigner, de me dire, voilà, toute cette histoire de guerre des sexes, ça me pose du souci, ça m'apporte de la souffrance dans ma vie au quotidien. Si jamais une personne, elle avait ce ressenti-là et qu'elle se présentait à un psychologue, il y a trois solutions qui pourraient lui être proposées. C'est l'approche cognitive, l'approche systémique et l'approche dialectique. Okay. Et je vais vraiment, on a l'impression que c'est des grands mots, mais je vais vraiment réussir à les expliquer de manière très simple. Vous allez voir que c'est très facile à comprendre. L'approche cognitive, la cognition, c'est la perception. Le psychologue, il va dire, ok, tu dis que cette histoire de guerre des sexes, ça t'apporte de la souffrance. Maintenant, on va essayer de discuter et d'essayer de comprendre quelle est ta perception des choses. Parce qu'on est d'accord que, comme les témoignages qu'on a reçus aujourd'hui, la perception qu'on a de toute cette histoire, ça peut être lié à notre éducation, les femmes ceci, les hommes cela, ça peut être lié à nos traumatismes ou nos mauvaises expériences.
Oui.
Quand on a vécu des mauvaises expériences avec des hommes, c'est totalement normal d'avoir une mauvaise perception des hommes. Cependant, si aujourd'hui, cette femme a envie de se relancer sur la scène du dating, c'est important qu'elle puisse discuter avec un professionnel de la santé mentale pour que cette perception passée ne vienne pas influencer sur ses interactions futures. Donc ce travail de la perception, il est aussi hyper intéressant. À chaque fois, je vais essayer d'amener une petite anecdote marrante.
Oui.
Un jour, il y a un jeune qui vient me voir et qui me dit « Écoute, les femmes ceci, les femmes elles sont comme ci, les femmes elles sont comme ça. » Et moi, je me dis « Wow, attends, t'as quel âge ?» Il me dit « J'ai 15 ans. » Je me dis, bon, on va pas rentrer dans ce dialogue-là. Là, je vois très bien.
En fait,
je vois très bien quel genre de vidéo tu as consommé sur Internet. Mm-hmm. Là, il était.
Oh,
c'était une journée, j'étais. Ouais, exactement. C'est une journée, j'étais extrêmement fatigué. Je voulais pas rentrer dans ce débat.
Ouais.
J'ai voulu rediriger la conversation vers quelque chose de beaucoup plus sain. Dis-moi qui tu es, c'est quoi tes passions dans la vie. Je lui ai posé une question toute bête. Je lui ai dit, c'est quoi tes rêves? Il m'a dit, comment ça un rêve? Je lui ai dit, bah écoute, là, t'es vivant. Dans quelques décennies, tu vas mourir. Qu'est-ce que t'as envie de faire entre temps?
Ouais.
Il m'a dit, mon rêve, c'est je voudrais accumuler le plus de connaissances possible pour pouvoir aider le plus de gens autour de moi.
Oh,
je me suis dit, waouh, de la bouche d'un jeune de 15 ans, ouais. c'est assez surprenant.
Ouais.
Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais les filles, quand tu leur parles, est-ce qu'elles le savent ça? Il a dit, bah non. Je lui ai dit, mais attends. Mais les filles, quand tu leur parles et que tu essaies de les séduire, bah, tu leur parles de quoi? Je lui ai dit, bah, de tout et de rien. Et je me suis dit, ah ok, donc je vois. En fait, il avait cette espèce de perception que dans la scène du couple, lui, bah, les conversations, c'était juste « salut, ça va ». Il n'a pas compris qu'il devait proposer à la personne en face son humanité. Donc, dans l'approche cognitive, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a cette notion d'exercice. Le psychologue va te proposer des exercices. Il ne va pas juste chercher à te convaincre comme s'il savait mieux que toi. Il va te proposer un exercice et on va voir les conséquences. Je lui ai dit, s'il te plaît, la prochaine fois qu'il y a une fille qui t'intéresse, parle-lui de tes rêves, parle-lui de ton humanité. Quelques semaines plus tard, cette histoire, je l'avais complètement oubliée. Il m'a recontacté, il m'a envoyé un screen, il m'a dit « Salut Franz ». Cette conversation qu'on a eue, elle a littéralement changé ma vie. Aujourd'hui, la crush que j'avais, j'ai réussi à la séduire.
Oh,
et il m'envoie des screens comme ça et la conversation, elle est juste hyper fluide.
C'est beau.
Donc, c'est bien le signe qui montre que c'est hyper important qu'on travaille sur notre perception. La seconde approche, ça va être l'approche systémique. Un système, en plus, ça, c'est un mot qu'on obtient de la science dure en général. Un système, c'est quelque chose qui est clos et dont les paramètres ne vont pas être influencés par l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, pour donner un exemple, un couple, c'est un système. Parce qu'un couple, c'est deux personnes, ils ont leurs propres règles, leur propre fonctionnement, leurs propres paramètres. Donc, si une personne vient me voir et me dit cette histoire de guerre des sexes et tout, ça impacte dans ma vie, ça impacte dans mon quotidien, je vais essayer de lui poser des questions par rapport à son système. Comment est-ce que ça fonctionne ? J'ai une anecdote plutôt marrante.
Ouais.
Un jour, il y a une jeune qui vient me voir et qui me dit les garçons, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que tous mes couples finissent souvent de la même manière. Et je lui ai posé la question, les trois derniers garçons que tu as fréquentés, tu les as rencontrés comment ? Et elle m'a répondu, en Tinder.
Aïe, aïe, aïe.
Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que ça pourrait t'intéresser que plutôt de te mettre dans la tête que tous les garçons ceci, tous les garçons cela, est-ce que ça pourrait t'intéresser que le prochain garçon que tu auras envie de fréquenter, tu te donnes la règle, ça ne doit pas être un garçon de Tinder. Elle m'a dit, ok, ça représente un défi, ça représente un véritable défi. Parce qu'elle, elle s'est sociabilisée comme ça. Aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux et du téléphone, c'est comme ça qu'on fait nos rencontres. Et en fait, parfois, sans s'en rendre compte, on s'enferme dans un cercle, on s'enferme dans une bulle. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de remettre en question notre système. Encore une fois, cette fois-ci, cette jeune fille-là, elle a appris petit à petit à faire des rencontres au-delà de toute cette histoire de réseaux sociaux, Tinder, Instagram, etc. etc. Et quand on apprend à faire des rencontres différemment, les conséquences, la manière d'interagir, elles vont être différentes, forcément. Et la dernière approche que j'ai envie de vous proposer, celle-là, elle me passionne énormément parce que c'est la plus récente. C'est vraiment un sujet qui est en train d'être débattu dans le monde de la psychologie. C'est l'approche dialectique. L'approche dialectique, elle est extrêmement touchante parce qu'elle a été développée par une dame qui s'appelle... je vais juste regarder Marsha Linehan.
Oui.
C'est une dame qui elle est atteinte du trouble borderline. C'est un trouble qui est extrêmement source de souffrance. Et elle a fait elle-même des études de biologie pour apporter une solution. Et l'approche dialectique, elle va énormément se concentrer sur l'acquisition de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette histoire de guerre des sexes, etc. etc. Je suis un homme, la personne en face de moi, c'est une femme. Il y a un phénomène d'altérité. Cette personne n'est pas moi. Je ne connais pas, je ne peux pas prétendre comprendre sa réalité. Elle ne peut pas comprendre la mienne. Quelle est ma compétence pour interagir avec quelqu'un qui représente une altérité ? La réponse que souvent on va sortir, c'est la communication, bien évidemment. Si la personne en face de moi, elle est différente, je suis un homme, c'est une femme, je suis noir, la personne est blanche, etc., etc. Je suis pauvre, la personne est riche. On est totalement différent, on peut se rapprocher par la communication. Cependant, la communication, c'est un outil parmi tant d'autres. Et tous les outils ont leurs limites. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de se poser la question « Quelles sont mes compétences ?» pour répondre justement à cette problématique. J'ai une anecdote extrêmement drôle, vraiment, ça m'est arrivé récemment. Et encore aujourd'hui, ça me fascine. J'ai fait la rencontre d'une fille qui est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une femcelle. Est-ce que vous voyez ce que c'est ?
Non,
pas du tout.
Est-ce que vous voyez ce que c'est un incel ?
Pas du tout.
Ok. Dis-nous tout.
Alors, un incel, ça va être ce genre de garçon qui a énormément de mal à interagir avec les femmes. Ça va lui susciter une véritable colère et il va se dire, ok, tous les problèmes que j'ai dans mon quotidien, ça va être la faute des femmes.
Ah d'accord.
Incel, ça signifie célibataire involontaire. Extrêmement handicapé. Il a des grosses lacunes comportementales, des grosses lacunes en interaction sociale. Et ce truc, cette lacune, ce handicap, ça va lui générer une énorme colère. Il faut savoir que c'est un véritable mouvement sur Internet. Aujourd'hui, quand un garçon...
J'avais entendu parler du documentaire.
C'est incroyable.
Voilà. C'est incroyable. Quand un garçon va être célibataire, il va avoir ce comportement de fustiger toutes les femmes. Ouais. On va dire que c'est un incel, mais c'est extrêmement important de savoir que là, on parle d'un véritable mouvement sur Internet. Il y a des gens qui se revendiquent comme étant les leaders du mouvement incel. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il faut savoir que là, on en parle un peu avec légèreté. C'est important de le dire, c'est un mouvement qui peut aussi être à l'origine de beaucoup de violence. C'est-à-dire que des hommes en colère qui ont du mal à voir des femmes, femme, ça peut prendre certaines proportions, mais il y a aussi des proportions qui sont totalement surréalistes. C'est des gens qui, aujourd'hui, considèrent que le fait de ne pas avoir accès aux femmes, c'est un handicap. Donc, ils considèrent qu'ils devraient recevoir des femmes financées par la sécurité sociale. Wow. Vous voyez un peu, là on parle de gens qui ont atteint un niveau
dans... Après, peut-être
excuse-moi,
que c'est un handicap psychologique,
c'est un vrai mouvement, c'est en France ou
c'est surtout en, c'est né sur un forum anonyme qui s'appelle 4chan, mais ce truc là ça, justement tout ce qui se passe sur internet ça se répand et il y a des différences totalement.
T'as plein de youtubeurs,
je suis fasciné par l'humanité, excuse-moi.
C'est extrêmement important d'en être sensible quand vous écoutez des personnes qui vont avoir cette espèce de discours d'automatiquement fustiger les femmes alors que ce n'est que le reflet de leur propre handicap, leur propre totale incompréhension de la manière dont la société elle a évolué. C'est important d'être capable d'interagir avec les gens en face de nous. C'est important de reconnaître que okay, ça c'est du discours qui s'affilie au discours incel. Et donc l'équivalent féminin qui est beaucoup plus rare, c'est ce qu'on appelle les femcelles. Et en fait, l'anecdote elle est drôle parce qu'en fait c'est une femme qui me témoigne, voilà. Moi quand j'étais petite, j'étais extrêmement timide et les premières amies que je me suis faites c'était sur des groupes radfem. Pour ceux qui ne savent pas, là, on va faire un peu de nomenclature. on va dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est des féministes. Mais parmi les féministes, il va y avoir un mouvement un peu plus virulent, un peu plus revendicatif, qu'on va appeler les féministes radicales. Donc, elles ont un discours qui peut être parfois, qui peut être considéré comme étant extrémiste. Donc, quand une jeune fille, ses premiers amis, sa première manière de sociabiliser, c'est avec des femmes adultes qui lui expliquent que les hommes méritent la mort, les hommes méritent la prison, tous les hommes. C'est-à-dire que le chromosome XY doit être totalement exterminé. C'est rigolo à un moment donné. C'est leurs premiers amis, c'est leur première interaction sur Internet. Ok, pourquoi pas.
Jeune.
Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, cette fille, elle arrive à l'âge adulte. Elle se considère comme étant hétéro. Elle a envie de se poser avec un homme. Mais comment on fait ?
Elle veut leur mort.
Elle s'est un peu séparée de ce discours-là. Mais le problème, c'est que toute l'étape de sa vie, c'est-à-dire adolescence, début, âge adulte, où elle est censée développer un peu ses capacités sociales, elle est passée totalement à côté de ça. Aujourd'hui, elle veut se poser avec un homme, mais comment est-ce que tu peux discuter seul à seul avec un homme alors que
t'as
même pas appris à humaniser la personne en face de toi. Donc c'est pour ça qu'il y a ce travail-là de dire, ok, l'histoire est marrante, elle s'éloigne de ce genre de discours, elle a envie de se reprendre en main par rapport à ça, donc l'approche dialectique, elle va lui permettre de développer des compétences.
Donc en fait, c'est toujours possible.
En fait, d'une certaine manière, c'est un peu comme apprendre des techniques de drague.
Il y a de ça. Parce qu'en fait, le problème, en fait, cette histoire de drague, là, on est directement dans le côté séduction. Mais il faut comprendre qu'avant même de pouvoir séduire, c'est important de voir la personne en face de toi comme un être humain. C'est pas l'objet de tes désirs, c'est pas l'objet de ton hétérosexualité. Avant toute chose, si t'as du mal à saisir que c'est un être humain, tu vas ressentir énormément de difficultés dans ton interaction avec la personne en face.
Mais on peut le dupliquer sur plein d'autres sujets, ce que tu me dis.
Oui, totalement. Donc c'est pour ça que, de manière générale, là j'ai pris cette anecdote-là pour pouvoir l'illustrer, mais de manière générale, c'est important que même nous, qui ne sommes pas du tout dans cette histoire d'incel, femcel, de se poser la question, ok, j'ai des difficultés dans mon rapport entre les hommes et les femmes, quelles sont les compétences à ma disposition, concrètement, qui me permettent de surmonter ces problématiques-là.
Ok, donc là, on est vraiment sur de la solution. Eh, les gars, j'espère que vous avez bien écouté, vous avez pris des notes.
Je pense que je vais le contacter pour mes problèmes personnels.
Ah ouais ? Et je pense que de toute façon, on mettra tes réseaux sociaux dans le descriptif. Ça va, Noé ? T'as pris la claque ?
Non, mais j'ai pris une claque.
C'est incroyable.
Un pur plaisir, vraiment, de tout ce que tu as dit, c'est un pur plaisir. Rebondir sur ça, c'est très difficile.
mais on t'écoute.
Moi, pour le coup, écoutez, je pense que ce que je veux dire va... Je pense qu'on va en débattre. Et ce sera parfait pour la suite, justement. dans un premier temps, j'ai un peu commencé comme toi, Benoît. J'ai une vision d'abord d'enfant, en fait. Voilà, je viens au monde. J'ai ma mère que j'aime de tout mon cœur. Mon père aussi qui est là. Et juste ça, en fait, on ne se rend pas compte. Mais les choses, en fait, entre la guerre des sexes, ça peut commencer là. Et moi, je commençais justement à parler de l'éducation. Déjà, vivre avec ton père et ta mère, ça te permet d'avoir une meilleure vision des choses. Dans cette guerre des sexes, tu vois.
Si le foyer est sain.
Mais si le foyer est sain. Mais après, commencer par exemple avec des parents divorcés ou j'en passe, là, ça peut être difficile dans ta perception de voir les choses. Moi, j'ai eu de la chance. On va dire, j'avais une perception assez simple. Mais je me suis rendu compte avec le temps et l'âge que ma vision, en fait, elle a beaucoup changé et j'ai pris beaucoup plus conscience des choses parce qu'il y a la culture, en fait. Moi, j'ai une culture africaine. Et en fait, la guerre des sexes en Afrique et la guerre des sexes en Europe, c'est pas la même chose.
C'est
pas du tout la même chose. C'est pas du tout les mêmes objectifs. C'est pas du tout le même fonctionnement. Et au-delà de ça, j'ai même envie de dire que pour certains hommes comme femmes, en fait, ce n'est pas un problème. Tu vas voir des femmes qui vont pas avoir le problème, par exemple, entre guillemets, d'être des femmes au foyer, mm-hmm. par exemple, tu vois, mm-hmm. Et qui vont être là en disant non, moi j'aime bien de fonctionner de cette manière-là où c'est que l'homme ramène l'argent et moi je m'occupe des enfants et tout, tu vois. Mm-hmm. Là où aujourd'hui, par exemple, en France, il va y avoir des combats pour justement certaines femmes qui n'aiment pas cette situation et souhaiteraient une situation différente, mm-hmm. à l'inverse pour les hommes. C'est-à-dire que moi, et vraiment là, c'est un avis personnel, je vais attaquer personne, ok ?
Il va attaquer
mais je vais devoir dire les termes.
Non, je vais devoir dire les termes.
Dans un premier temps, la différence, moi, que j'ai pu constater et qui m'a emmené justement à me dire, en fait, ouais, il y a une guerre des sexes, tu vois, c'est la manière dont chacun se voit. C'est-à-dire que moi, j'avais cette impression où les hommes avec qui j'ai grandi avaient vraiment une définition de la femme assez, tu sais, quand on est jeune, en mode objet, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et quelque part, au début, je me dis, bon, ça peut être l'éducation, l'environnement, plein de choses, tu vois. Là où la femme, par exemple, je suis désolé, hein.
Non, excuse-moi, c'est ton vécu.
Les femmes, en fait, j'avais l'impression que vous, au-delà des hommes, vous êtes en concurrence entre vous. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, il est bête, mm-hmm. mais essayez tout de vous mettre dans le contexte. Un homme arrive dans une entreprise, d'accord, mm-hmm. dans cette entreprise-là, voilà, il y a, on va dire, beaucoup de filles,
ouais.
ok. Il y a, par exemple, il y a un seul gars. Mm-hmm. Tu vois, le mec, il va venir vers le gars directement, il va aussi parler avec les meufs, mais il va réussir tout de suite à devenir ami avec ce gars-là et à essayer de créer quelque chose.
Ok. Tu vois.
Maintenant, à l'inverse, une femme, elle rentre dans une entreprise, il y a beaucoup de gars, il y a une meuf. Mais il est possible que la meuf, elle s'entende pas avec l'autre meuf et qu'elle dise non, en fait, elle est bizarre, et puis va facilement pouvoir parler avec les autres gars. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a, en fait, ce truc-là. Et maintenant, au-delà de ça, si je vous fais un autre exemple, ou par exemple, vous rentrez dans une entreprise, et là, je parle juste des filles, je vous pose la question. Il n'y a que des meufs dans l'entreprise où vous allez. Est-ce que pour vous, vous allez vous sentir, ou vous êtes déjà senti, si le cas est arrivé, bien accueilli par toutes les meufs que vous avez vues, par exemple ?
Moi, j'ai eu le cas. J'ai travaillé dans la pub. Mm-hmm.
Ouais.
Donc, c'est souvent un univers où il y a beaucoup de femmes.
Ouais.
Moi, je sais que généralement, c'était assez bienveillant. Okay. Après, au début, c'est toujours un peu comme ça, un peu hypocrite.
Ouais.
Et après, des fois, ça tourne au vinaigre, en fait.
Les mots-clés.
Malheureusement.
Cam, tu veux réagir ?
En vrai, je pense que ça dépend de la moyenne d'âge.
Ouais.
Mmh. Bien sûr.
Parce que moi, avant, quand j'étais en mairie, je travaillais... Enfin, du coup, moi, j'étais toute seule dans mon service en soi, mais... les collègues que je côtoyais le plus, c'était que des femmes, mais d'un certain âge, il y avait vraiment zéro problème. Par contre, à contrario, je pense que, en fait, c'est juste question de maturité. C'est pas question de genre ou quoi, c'est vraiment question de maturité.
Oui.
Je pense. Parce que une femme d'âge mûr, elle a sa vie, elle a son mari, sa femme, ses enfants. Elle
c'est
a pas
ça.
De.
C'est
voilà.
Bon, on en vient.
Mais quand t'es mm-hmm. jeune, t'es
t'as
un peu. T'as les hormones. Enfin, c'est le côté hormonal, je pense. Où ouais. tu dis, il y a un. En fait, non, mais c'est pareil pour les hommes. Hein. C'est homme-femme, c'est pareil.
J'en viens, t'inquiète pas.
Je pense que vraiment, c'est pas question de genre, c'est vraiment question de d'âge, en fait, et ouais. de vie, en fait. C'est...
Okay.
Ou du milieu dans lequel tu es aussi.
Okay.
Parce que t'as des milieux toxiques qui engendrent ça aussi.
Mm-hmm. Moi, pour ma part, je pense que, effectivement, c'est le milieu et c'est l'endroit, l'environnement, totalement. Là, je vous fais part de certains témoignages que j'ai pu avoir. T'as certaines femmes avec qui j'ai eu des échanges qui, justement, m'expliquaient que elles avaient l'impression que la solidarité féminine, en fait, c'est quand ça les arrange. C'est-à-dire que, par exemple, rentrer, que ça soit dans le monde du travail, que ça soit dans plein d'autres choses, par moment, le dialogue entre vous, les femmes, c'est un peu plus compliqué. Et nous, les hommes, mais c'est un autre univers, c'est un autre monde. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, une embrouille entre filles, ça peut... et on dit souvent, les hommes disent souvent, ouais, vous vous embrouillez pour des mecs, tu vois. C'est un truc avec lequel on a un peu tous grandi, tu vois. Les hommes, c'est la même chose, sauf que c'est très différent. Ça veut dire que nous, par exemple, quand deux hommes vont être en présence d'une meuf qui veulent, entre guillemets, draguer, mm-hmm. ça va être le truc, tu sais, de vouloir, du coup, avoir un comportement avec ton pote qui est très différent de base, tu vois, de l'initial. Et tu sais, tu vas être dans un truc de, ah, comme il y a une fille, par mm-hmm. exemple, mm-hmm. je vais me comporter de manière différente et je vais vouloir impressionner. Mm-hmm. Et c'est malheureusement, et là je pense que c'est un truc qu'on a beaucoup entendu parler dans les réseaux, mais c'est le fait de vouloir rabaisser la personne avec qui tu es pour justement impressionner l'autre personne, tu vois. Et moi, c'est des choses que j'ai vécues, mais vraiment de manière systématique, et ce qui fait en fait que j'ai commencé à avoir une vision. Et ma vision, en fait, elle va se, on va dire, en fait, elle va surfer entre deux vagues. Dans un premier temps, on est d'accord que sur les réseaux, on va vraiment mettre en avant le fait que la femme, donc elle est vue comme un objet, et que la femme, et maintenant beaucoup d'hommes pensent comme ça, hein, pour séduire une femme, il faut l'argent, tu vois. Et là où les femmes vont être dans le truc de, pour qu'un homme me séduise, il lui faut de l'argent, il peut pas me séduire comme ça, moi je fais partie de l'élite. Et tu vois, en fait, il y a des mentalités qui sont créées, par exemple, sur les réseaux, malheureusement, et je vous le dis, hein, il y a des gens qui voient ça comme la réalité. Pour eux, c'est leur réalité. Pour eux, pour séduire, il faut faire ça, il faut ça, il faut ça. Et je pense que malheureusement, en fait, là où est notre problème dans cette guerre des sexes, c'est qu'on veut faire de tout ce qu'on voit, de tout ce, par moment même ce qu'on lit, notre réalité, et surtout même être fermé au débat, être fermé au fait qu'une personne te dise « Non, moi j'ai vécu telle ou telle chose, j'ai vécu telle et telle expérience, ça s'est passé comme ça. » Et ça s'est bien passé. T'as d'autres personnes qui vont dire ça s'est bien passé, mais tu es l'exception de la règle, parce que tout le reste, c'est comme ça. Les hommes, c'est ça. Les femmes, c'est ça. Et je pense que malheureusement, en fait, dans ce débat, au-delà du fait que nous avons des différences, c'est qu'on ne s'écoute pas et c'est qu'on cherche nos sources par moment pour nous arranger. C'est-à-dire que pour avoir raison, il y a des gens qui vont être capables de dire des choses, on va dire... je vais pas dire des termes forts, mais bref, ils vont mentir. Tu vois, ils vont arranger les choses à leur chose. Comme... du coup font les coachs, on va pas parler des noms, on a très bien dit, mais certains coachs vont arranger à leur sauce. Ils vont parler par exemple d'une catégorie de femmes et dire les femmes c'est ça.
Exactement.
Tu vois, et ça c'est triste parce que malheureusement les gens qui vont écouter vont être bah oui les femmes c'est ça, parce qu'il dit que c'est ça et parce que ce que je vois dans ma réalité c'est à peu près ça. Sauf que mesdames et messieurs, votre réalité c'est une poussière comparée à la vraie réalité, en fait. Je pense que, au final, et moi, si je devais donner des solutions, la vraie chose, en fait, c'est de parler, mais avec des gens différents de ceux que vous fréquentez. Essayez d'aller dans des milieux où vous n'avez pas l'habitude d'aller, et vous allez voir qu'au final, homme comme femme, on a nos différences, mais il y en a qui arrivent très bien à cohabiter. Et au-delà de ça, j'ai même envie de pousser le délire, non, c'est que tout ne s'arrête pas à ce qui se passe en France. Dans d'autres pays, les femmes, les hommes et les femmes arrivent très très bien à coexister et il n'y a pas cette guerre-là en fait, c'est même différent. Donc pour moi, quand on parle de différence hommes et femmes, je me dis qu'en fait il y a une sorte de plafond vert, mais surtout au-delà de ça, on cherche à se faire la guerre et les réseaux n'arrangent pas les choses, la société n'arrange pas les choses et la vraie solution à ça, c'est de pouvoir en fait être suffisamment intelligent parce que ça demande quand même une certaine intelligence de ne pas s'arrêter à ce qu'il y a devant nous et de chercher juste plus loin, de parler, de communiquer et d'essayer d'être un homme meilleur ou une femme meilleure, en fait, tout simplement.
Pas mal du pas mal du tout. J'aime bien quand parce que tu nous as bien expliqué ton propos, t'as pris le temps de partir.
Néanmoins, de toute façon, je pense qu'on va, en plus, il nous reste du temps, donc on va pouvoir débattre sur plein de choses. Et même s'enchaîner sur le troisième jeu.
Camélia, tu voulais ajouter quelque chose?
Je voulais rebondir sur ce que tu as dit.
Yes.
Je rajouterais aussi que, en fait, ta réalité n'est pas la réalité universelle.
Exactement.
Dans le sens c'est où c'est vachement conditionné par ton vécu.
Exactement.
Et par ce que tu as soigné ou non.
Exactement. Exactement. Et c'est vrai que les traumas, justement, hommes comme femmes, peuvent justement créer un Alex Kitchen, par exemple, à mon avis. C'est les traumas qui créent en fait le personnage. Et après, malheureusement, il y a toujours des gens qui seront d'accord avec nous. Et voilà, ça crée cette guerre-là. Hein.
Après, moi, je pense que ce qui fait vraiment peur, et tu l'as très bien souligné, c'est le fait que ce genre de contenu, il est dirigé vers les adolescents.
Exactement.
C'est-à-dire des personnes qui sont en train de se construire, et je te rejoins complètement, Soufa. Et pour moi, c'est vraiment le gros danger. En fait, si ça s'adresse à des adultes, soit l'adulte, il a décidé de se déconstruire, et voilà. Mais un enfant n'a peut-être pas les mêmes outils. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu peur, mais
très
on est de bons conseils, vous inquiétez pas.
On va essayer maintenant de vous trouver des solutions.
Ah ouais ?
On va essayer. À partir de maintenant, on parle solution, messieurs dames.
On parle solution. Cam, je me tourne vers toi pour le troisième jeu.
Alors, troisième, enfin, en fait, il y en a deux en un. dernière définition, dernière au pluriel. Pour vous, votre définition à vous de la misogynie et de la misandrie.
Oula.
Alors moi je dis rien parce que voilà, c'est, j'ai dit misogynie, j'ai commencé par ça.
Oui.
Je dis rien, je me tais, je vous laisse
donc,
parler.
Donc t'es quoi, tu es
censé
connaître
là. J'ai les deux, allez, allez.
Ok.
À vous.
Camélia.
Bah misandrie, la haine des hommes par les femmes. Et misogynie, bah c'est l'inverse par les hommes, je pense.
Oui.
Oui, c'est ça.
Oui, ouais, c'est ça. Vous voulez peut-être rajouter des...
un exemple de misogynie que vous avez vécu
Non, on n'est pas encore sur ça. Nous, là, on est encore
t'inquiète pas, j'en donnerai dans mon argumentaire.
Ok.
Oussoufa, tu voulais peut-être réagir.
Alors, j'aurais dit exactement la même chose. Je voulais juste apporter une petite nuance. Faut savoir que dans la mesure où moi, j'ai déjà été amené à débattre avec des personnes qui sont féministes, qui sont porteuses justement de... Je ne sais pas si vous avez vu, il y a très peu d'hommes qui vont dire « Moi, je suis fier d'être misogyne ». Alors que sur Internet, on va souvent voir des femmes qui vont dire « Moi, je suis fier d'être misandre ». Et donc, ça m'est déjà arrivé de questionner justement cette démarche-là. Et la fille avec qui j'ai pu discuter, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle, pour elle, la misandrie, c'était pas forcément la haine des hommes, mais c'était plus un sentiment de réaction et de méfiance. De méfiance des hommes vis-à-vis de la nature même de ce groupe. Là où la misogynie, historiquement et sociologiquement, ça va être présenté comme étant une haine, mais ça va tenir des origines sociologiques qui sont totalement différentes.
C'est ça.
C'est ça. En vrai, les termes exacts, c'est haine, mépris ou hostilité. Voilà. Okay. Donc, que ça soit de l'homme, donc du coup, misandrie de l'homme et misogynie de la femme.
Et la deuxième ? Tu m'as dit qu'il y avait deux définitions.
C'est ça.
Ok. Moi, je me permets quand même de rajouter quelque chose parce qu'on avait eu le débat en off avec Cam. Ça reste mon point de vue. Je sais qu'il y a des études qui me donnent raison, d'autres non. Mais j'ai l'impression que c'est une impression. La misogynie, il y a souvent des conséquences qui peuvent être physiques, qui peuvent aller jusqu'à la mort. La misandrie, j'ai l'impression que c'est soit moindre, soit qu'il n'y en a pas.
C'est plus passif.
En tout cas, c'est l'impression. Genre, j'ai plus entendu des femmes qui peuvent mourir sous les coups d'un homme qui est misogyne, là où un homme qui serait tué par une femme parce qu'elle était misandre, je ne l'ai pas entendu, tu vois.
En fait, la misandrie, parce que moi, j'ai souvent vu justement sur les réseaux sociaux des femmes, dues à leurs expériences, qui disaient « j'aime pas les hommes,
tous en prison,
tous des cafards ». Et en fait, je pense que la misandrie, c'est beaucoup plus verbal, c'est beaucoup plus dans l'expression verbale plutôt que physique, même si je n'explique pas que peut-être qu'il y a des mouvements qui sont un petit peu plus extrêmes que d'autres. Ouais. Là où la misogynie, en fait, je trouve que dans notre société, alors je ne sais pas si c'est propre à la société française, moi je parle sur cette base-là parce que j'y vis, je trouve que la misogynie est beaucoup plus ancrée que la misandrie. Je m'explique. Dans le sens où la misogynie, quand même, à travers l'histoire, vu qu'il y a eu énormément de changements, justement, sur les rôles de chacun, de l'homme et de la femme, y a eu des hommes dans l'histoire qui ont eu beaucoup de mal, justement, à accepter ces changements-là. Et de surcroît, on va pointer du doigt les femmes, on va penser... ça, c'est beaucoup plus...
Inconscient
qu'elles vont prendre notre place, qu'elles vont devenir les reines du monde. J'extrapole un petit peu le truc, mais la misogynie, moi je trouve qu'elle est beaucoup plus ancrée dans la société et beaucoup plus banalisée que la misandrie. Là où la misandrie, je trouve que ça a eu un petit essor depuis quelques années, mais ça fait moins de bruit. Là où la misogynie, vraiment, c'est beaucoup pointé du doigt et même, je dirais même, au-delà de ça, même dans les discours politiques, des fois, c'est mis en avant. Là où, justement, je pense que tout ce qui est politique, etc., ça a quand même une grosse portée, une grosse influence sur les gens.
Ouais.
Et ça ne devrait pas avoir sa place.
Après, je pense que c'est peut-être aussi la question historique, parce que ça existe peut-être depuis plus longtemps. Je t'écoute, Oussoufa.
J'aimerais juste poser une question, mais vraiment de manière purement interrogative.
Ouais.
Là, on a parlé du fait que la misogynie, ça avait des conséquences concrètes et physiques, là où la misandrie, c'était plus conceptuel et verbal.
Pardon, moi je précise, c'est que pour moi, dans les deux cas, il y a des conséquences. C'est juste qu'il y en a une où on peut constater la mort ou des coups physiques.
Oui, totalement. Oui. Donc, je voulais vous poser la question. Est-ce là, vraiment, de manière purement interrogative, on est d'accord que l'homme va beaucoup plus avoir tendance à exprimer cette violence parce que physiquement, il en a la capacité et socialement parlant, il a été éduqué à exprimer cette capacité de violence. Mais j'aimerais prendre l'exemple, par exemple, de la justice.
où, dans certains pays, on pratique la peine de mort.
Ouais.
Notamment aux États-Unis. J'ai envie de vous poser la question, que ce soit des magistrats masculins ou féminins, mais cette espèce d'idée qui est véhiculée, cette perception très négative que l'homme, avec un petit H, le garçon, est un sauvage, est une bête violente, on va beaucoup plus avoir tendance à lui... proposer une sentence de peine de mort, là où des femmes vont beaucoup plus tendance à être acquittées.
Oui, oui. Après,
donc est-ce qu'au final, l'expression de la violence, elle se fait pas juste dans les moments où au final, elle est possible, et que si les femmes, elles étaient, elles étaient physiquement toutes, il y avait un espèce de pouvoir magique qui rendait les femmes tout aussi capables physiquement que les hommes, est-ce que au final, cette misandrie, elle aurait pas beaucoup plus tendance à être exprimée?
Je pense que oui.
Je peux répondre
certainement.
Est-ce que je peux répondre?
Oui.
Je suis très content de ta remarque. Bon, disclaimer, je manque de sources sur le sujet, mais je sais qu'elles existent. Ok, c'est qu'en fait, déjà historiquement parlant, on a bien vu lorsque des femmes étaient au pouvoir, parfois elles pouvaient être aussi sanguinaires que des hommes. Je parle dans les époques médiévales ou époques modernes. Mm-hmm. Donc il n'y a pas eu vraiment de.
Quand c'est pas de plafond de verre finalement.
Quand il n'y a pas de plafond de verre, en fait, l'expression de la violence est la même. Mm-hmm. Voilà, parfois même peut-être plus cruelle, mais ça dépend des États, ça dépend des régions, etc. Et par contre, ce qu'on a pu constater, c'est que lorsque tu regardes les infanticides ou les violences faites aux enfants, tu as une proportion majoritairement de femmes.
Est-ce que t'as une logique?
J'ai pas les chiffres, mais d'après les sources que j'avais, peut-être que tu veux me contredire là-dessus. Ou nuancer?
On t'écoute, Oussoufa.
Et vas-y, je t'en prie.
Sur le sujet de l'infanticide, je voulais juste mettre en avant le fait que c'était extrêmement important de prendre en compte toute la dimension postpartum. Mm-hmm. C'est-à-dire que, statistiquement, on sait qu'une femme après une grossesse, dans la mesure où biologiquement, psychologiquement et socialement, ça peut être une période très violente, effectivement, il y a cette période où... maladivement parlant, c'est une expression de la dépression. Effectivement, une femme peut se faire du mal et peut faire du mal à un bébé.
Très bien.
Mais c'est un état qui est considéré comme étant maladif. C'est pas l'expression normale de la femme.
Okay.
Ça, c'est le premier point. Mais ensuite, oui, de manière générale, il faudrait se poser la question, au-delà de cette histoire de postpartum, est-ce que les femmes ont plus tendance à être violentes envers des enfants?
Parce que si c'est le cas, si les chiffres sont bons et que c'est le cas, ça veut dire qu'en fait, les femmes peuvent exprimer de la violence dès lors qu'elles ont un avantage physique, en fait. Et que c'est pas juste une question de ce sont des femmes, elles sont moins violentes. Non, c'est juste qu'elles sont dans la posture où elles peuvent l'exprimer. Et je pense que les hommes, étant très souvent et quotidiennement même dans la posture d'exprimer leur violence plus facilement que les femmes, du coup, ils en usent. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on les perçoit comme étant, potentiellement, comme tu le disais tout à l'heure, les premiers à exprimer la violence et... les premiers instigateurs à utiliser la violence physique et non les femmes. D'où le fait que la misogynie s'exprimerait de manière physique principalement et non la misandrie. Mais si les femmes avaient un avantage physique, peut-être qu'elles l'utiliseraient tout autant.
Après, peut-être qu'il faudrait voir aussi dans certaines sociétés, je pense que la question de la guerre des sexes n'existe peut-être pas comme ce qu'on a nous aujourd'hui en Europe, ni la question du patriarcat et de son poids. Je pense beaucoup en Afrique, puisqu'il y a pas mal de pays où justement ils sont plutôt matriarcal, je ne sais pas. Et pour le coup, ça serait intéressant de voir, quand il n'y a pas de plafond de verre, comment est-ce que les interactions fonctionnent et comment est-ce que ça se passe. Mais bon, j'ai pas fait des recherches.
J'avais l'exemple d'une société qui m'a un peu fasciné, c'était en Arménie. Donc après, peut-être que les auditeurs arméniens me corrigeront. Mm-hmm. Mais lorsque j'étais en voyage en Arménie, j'ai constaté une chose, c'est que c'est une société patriarcale qui est assumée. Mais l'expression de la patriarcalité est maintenue par les femmes.
Ok.
C'est-à-dire que quand tu t'adresses à des jeunes filles, tu vas voir qu'elles vont être surveillées principalement par leur mère, bien plus que par leur père. Mm-hmm. Tu vas voir que les mamans vont exiger que dépêche-toi de te marier, dépêche-toi de trouver un homme, etc., bien plus que les hommes. Là où les hommes, tu sentais que c'était en mode, il y avait un peu de retrait dans ces questions-là, mais que les femmes étaient beaucoup plus à cheval sur comment elles devaient gérer, comment elles devaient gérer leur vie, etc. Par exemple, que je demandais quelles sont les situations qui vous mettent mal à l'aise. Bon, déjà, une des questions qui m'a fasciné, c'est, je leur ai demandé, comment se comportent les hommes dans votre pays? Je leur ai demandé de poser cette question-là, parce que quand je marchais dans la rue en Arménie, je sentais que les femmes étaient en sécurité. Elles dégageaient une certaine énergie, où tu sentais qu'elles n'étaient pas paniquées, elles n'étaient pas inquiétées. Et je leur ai demandé, la première réponse qu'elle m'a dit, dans notre pays, les hommes, ils sont éduqués. Donc, comme quoi, l'éducation, c'est quand même la première chose qui conditionne un homme. Voilà. Et la deuxième des choses, on leur demandait qu'est-ce qui est un peu relou, elle nous disait nos mamans. Parce qu'elles nous surveillent,
Elles
nous flique un peu, tu vois. Et pourtant, dans la structure de la famille, c'est une société patriarcale.
Ouais.
Mais tu sentais que, certains comportements qu'on peut retrouver dans d'autres sociétés patriarcales, comme le fait de surveiller les jeunes filles, de s'assurer qu'elles ne dévient pas, ce côté un peu qu'on peut retrouver chez beaucoup d'hommes, là, tu le retrouvais chez les femmes.
Ok.
Donc, du coup, ça. C'est une exception un peu l'Arménie, mais du coup, j'ai trouvé un peu ce modèle-là. où c'est les femmes qui mettaient un peu plus la pression sur les femmes elles-mêmes, sur les futures générations.
Ok. Oussoufa, tu voulais peut-être réagir ?
Non, pas forcément.
Ok, bah écoutez, c'est parfait. Il nous reste à écouter notre très belle Cam. Cam, pour toi, c'est comment la guerre
belle, c'est subjectif. Hein. Passons.
Bah, j'ai le droit d'écouter belle.
C'était drôle. C'était une blague. Camille. C'est subjectif. La beauté est subjective. Merci, c'est gentil.
T'es belle, Camille.
Mais la beauté est subjective. Mais la beauté est rien subjective.
T'es belle, Camille.
Cam, on t'écoute.
Alors, pour moi, en toute sincérité, pas dire que je me suis censurée, mais disons que j'ai modéré ce que j'ai dit.
Merci.
Parce que je sais que je peux être parfois très dure, mais dans les deux sens. Alors, pour moi, parler de guerre des sexes, déjà, moi, je parle plutôt de guerre de genre plutôt que guerre des sexes, parce que je...
Oui.
Voilà.
J'ai oublié, j'aurais dû parler de ça aussi.
Parce qu'il y a cisgenre, transgenre, etc. Bien sûr, c'est une question de genre et pas de sexe.
T'as totalement raison.
Alors, pour moi... Je suis une femme, cisgenre, féministe, de gauche. Je précise parce que du coup, fatalement, on comprendra peut-être un peu mieux mon propos, excusez-moi. Donc pour moi, actuellement, si on parle de comment aujourd'hui commençait, enfin c'est comment, pour moi, si on parle d'évolution, pour moi, il n'y a pas d'évolution. En toute sincérité, pour moi, il n'y a pas d'évolution, c'est une mascarade. Ouais, je vous dis français, je parle français, je suis désolée. C'est une mascarade.
Ça commence fort, hein.
Pourquoi je dis que c'est une mascarade, c'est que pour moi, ça suffit pas. Pour moi, ça suffit pas parce que malgré que il y ait des choses qui soient enclenchées, on parlait de parité, il y a un terme tout à l'heure que j'ai prononcé et que c'est un mot qui me gêne énormément, c'est le terme quota.
Ouais.
Parce que la parité engendre des quotas. Sauf que dans la logique des choses et dans le sens où on parlerait d'équité ou d'égalité de genre vraiment structurée et structurelle. On parlerait pas de quotas, parce que ça semblerait normal qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez le nombre de féminicides qu'il y a eu en France en 2023 et en 2024?
Ça doit être énorme, je suis sûr.
Beaucoup. Il y en avait eu 100,
une centaine. Une centaine de féminicides. Et en fait, moi, ce qui me pose problème...
Est-ce que tu peux juste définir les féminicides?
Ah, les féminicides, si en gros, c'est le meurtre de sa femme par son conjoint.
Ou l'ex-conjoint,
dans le couple en fait, dans le couple ou un ex-couple. Donc,
attends, dans le féminicide, c'est tuer une femme, c'est l'époux qui tue sa partenaire, c'est ou ça. C'est tuer une femme parce que c'est une femme.
Non,
c'est dans le cadre du couple, okay. Par exemple, elle décide de partir.
C'est ça, en gros, pour la retenir, en gros, voilà, bref.
Ok.
Je pense que c'est plutôt lui qui a raison.
Ah ouais,
C'est-à-dire un frère qui tue sa sœur, c'est aussi considéré comme étant un féminicide.
Ah ouais, autant pour moi.
Moi j'étais parti dans ce... Désolé. Moi je parlais du coup dans le sens du couple, dans le couple. Hein. Okay. Parce que là du coup les chiffres c'est par rapport au couple, pas par rapport au... Donc c'est ça, c'est plus d'une centaine. Donc c'est en ce qui est recensé. Et c'est 2023-2024, c'est les mêmes chiffres. Hein, quasiment. Okay. À 3 ou 4 près, c'est les mêmes chiffres. Okay. Moi personnellement, je trouve que c'est énorme. Okay. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve personnellement que c'est énorme.
Ça l'est.
Ça va.
Pour.
c'est une blague. Camille.
Je sais, t'inquiète. Je sais. Non, mais en fait, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je connais des femmes qui ont subi les coups d'hommes. Mm-hmm. Alors, je dis pas que tous les hommes sont violents, parce que ça serait mentir. Mon père est un homme incroyable, par exemple.
Ouais.
Donc, j'ai pas vécu dans une famille où on peut dire. Franchement, une famille modèle. Vraiment, j'ai pas. Voilà, mes parents, incroyables. J'ai grandi dans une famille.
Gros bisous à eux.
Une famille essentiellement de femmes, parce que j'ai que des cousines, je suis fille unique. Mais mes premiers amis étaient des hommes. N'est-ce pas, Noé ?
Salut !
Donc j'ai grandi vraiment dans deux sphères complètement différentes. Donc je pense que j'ai vraiment compris les deux genres de manière différente. Enfin, de manière différente, non, dans
leur globalité.
Dans leur globalité. Et je ne dis pas que tous les hommes sont mauvais, comme je ne dis pas que toutes les femmes sont bien non plus, parce qu'il faut nuancé, et je parle, et là je pense en toute sincérité, en plus à la base j'avais écrit quelque chose, mais je pense qu'à force de vous avoir écouté, j'ai aussi pas changé mon idée, parce que mon idée ne changera pas, mais
c'est bien,
je l'ai nuancé, dans le sens où c'est vrai que initialement j'allais beaucoup mettre en avant le combat féministe, machin, etc. Mais c'est vrai qu'on oublie aussi de dire que le combat féministe, à la base, c'est pas radical, c'est pas violent. Et il y a beaucoup de dérives aussi dans des mouvements féministes, qui ne devrait pas être. Comme on l'a dit tout à l'heure, tous les hommes ne sont pas mauvais. Si on est contre la misogynie, on doit être contre la misandrie également. Parce qu'à la base, c'est deux notions qui sont au final semblables. ça reste une haine de l'autre. Oui, et oui. Non, en fait, le comment vous voulez qu'on avance dans une société et qu'on évolue, justement, je vais parler de non-évolution, si on déteste l'autre, on n'avancera pas.
D'accord.
Mais, à contrario, et là, je rebondis sur un autre truc, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis historienne, techniquement, des sexualités et des genres, parce que j'ai travaillé sur l'homosexualité, et pour moi, un couple homosexuel peut aussi bien éduquer un enfant en apprenant qu'un homme, une femme, sans problème. Donc pour moi, les deux genres sont, certes, par rapport à la construction telle qu'elle est faite, et je suis croyante. Mm-hmm. Je tiens à préciser également, parce que voilà, c'est juste que j'ai beaucoup plus réfléchi sur ce sujet-là. Les deux genres, certes, sont naturellement, se complètent naturellement, mais je pense que des personnes de même genre aussi. C'est juste vraiment le caractère, c'est la vie, c'est l'environnement. Et quand Noé, tout à l'heure, parlait d'environnement. Pour moi, c'est vraiment l'environnement dans lequel on évolue.
Ça joue tellement, en réalité.
Et on est, et comme bon, je suis féministe, et alors je vais me faire taper dessus par beaucoup de féministes, mais oui, il y a beaucoup de haine entre les femmes.
Même la guerre en interne.
La guerre en interne. Et je suis désolée, mais moi, je vous parle du coup d'un truc que, encore, il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé avec une amie à moi. Elle s'est fait contrôler par une femme. Alors qu'un homme l'avait contrôlé avant, il lui a dit ouais, c'est pas grave, vas-y, passe. Elle est venue, tout de suite dans l'agressivité.
Tout de suite dans l'agressivité.
Mais c'est par rapport à son genre ou c'est par rapport à autre chose? Non, peut-être que la dame, elle était mal lunée aussi.
Non, c'est par rapport à son genre. Parce que sur un homme, on va pas agir de la même manière. Et je l'ai vu,
je l'ai vu.
Le premier contrôle que j'ai subi, c'était à Opéra.
Ouais.
Et je l'ai vu. Franchement, je me suis dit, mais.
C'est terrible.
Magou, genre à deux secondes, t'es là, un grand sourire. Et là, genre, t'es là, tu es grave fermé. C'est quoi le problème? En fait, le problème, c'est que même dans la lutte féministe, on n'avancera pas parce que les femmes, on se tape les unes sur les autres aussi.
Excuse-moi, Camille, j'aurais bien sûr d'avoir compris l'entièreté de ton propos. Pour l'instant, l'entièreté de ton propos. En fait, tu trouves que quand tu dis que tu vas être radical dans ton propos, c'est que tu trouves que ceux qui veulent trouver des solutions ne sont pas assez radicaux, c'est ça?
Non.
Ok. Donc, du coup, c'est quoi vraiment le.
Pour moi, déjà, la solution, elle est simple. On doit s'écouter les uns les autres, premièrement. Et il faut qu'on arrête d'attiser la haine, que ce soit la misogynie comme la misandrie.
Okay.
Déjà, ces termes ne devraient même pas exister, et c'est ça qui m'énerve. Après, le problème, c'est comme j'avais dit au Wafa, c'est qu'on est dans des sociétés où, fatalement, on a grandi dans le sens où vous regardez autour de vous, dites-moi lequel, enfin, dans votre entourage, vous avez forcément quelqu'un qui vous a dit « Ah, moi, mon premier enfant, que ce soit un garçon. »
J'ai pas.
Moi, j'ai beaucoup. Moi, je vous jure que j'ai beaucoup, parce que justement... Avoir un garçon en premier, ça rassure.
Attends.
Ok.
Si je peux répondre, je fais partie de ces hommes, de cet individu qui.
Et je parle pas des hommes, je dis en général.
Je voulais dire, c'est que moi, en fait, ça dépend de mon humeur. Il y a des fois, c'est. Non, mais c'est
l'honnêteté. Vrai. Dit, ça
c'est dépend. À dire que moi, toute ma jeunesse, on va dire, c'est très, très récemment. Hein. Franchement, j'étais en mode, je me dis, non, je veux une fille. Mais je sais pourquoi j'ai une fille, parce que moi, je suis le second dans ma famille, j'ai une grande sœur. Donc, par répétition aussi. J'ai envie d'avoir une fille en premier parce que je sais c'est quoi l'avant. Enfin, j'ai vu le bon exemple de la grande sœur. Et maintenant j'ai grandi. Et maintenant j'ai grandi. C'est bizarre. Maintenant j'ai grandi. J'ai bizarre. Et j'ai une bonne image. Pardon, c'est pas bizarre. Non mais en grandissant, c'est assez étrange. C'est que j'ai l'impression que étant donné que j'ai une bonne image de moi-même, je pense que je pourrais.
Le premier, ça pourrait être un bon garçon.
Je pourrais, essayer. Je serais content d'avoir un garçon. Pour essayer de lui transmettre tout ce que j'ai pu acquérir. C'est juste ça, en fait. C'est cette connexion de ces trucs. Alors qu'avant, c'était en mode j'ai une grande sœur, j'ai ma mère, je veux une fille, tu vois.
Ouais.
Et maintenant, je me dis, en fait, non, je suis un homme bien quand même. Je veux un garçon. Voilà, excuse-moi pour moi.
Non, mais t'as raison. T'as raison. En fait, au final, on en revient au point où, au final, le problème, c'est l'éducation.
Ouais.
C'est purement l'éducation. Si tu inculques à ton enfant telle chose, après, oui, certes, la vie fera qu'il évoluera et que. Il s'ouvrira au monde et qu'il verra par lui-même. Mais quand on regarde généralement les personnes qui, entre guillemets, vivent dans la haine aujourd'hui, c'est les personnes qui ont grandi dans une sphère de haine.
Ou qui ont vécu des traumas.
Ou qui ont vécu des traumas. Mais du coup, qui ont vécu dans un truc
l'environnement.
C'est l'environnement.
Moi, pour faire juste une petite anecdote, je vis avec des collégiens, principalement, beaucoup de collégiens.
Non, et tu travailles dans un collège. Faut expliquer là.
Parce que tu travailles dans un collège, que vivre avec des collégiens, c'est bizarre.
Je vis mon quotidien avec les collégiens, c'est-à-dire. Voilà. Et par exemple, il y a un terme qui revient beaucoup, qu'on entend beaucoup.
Tu me fais
par exemple,
je t'écoute.
Je vais le dire, c'est un terme, je vais le dire, je suis désolé. C'est BDH.
Ah, ouais. Je pensais d'aller dire Pick Me.
Ah, bah non, c'est BDH.
Ah, c'est le nouveau Pick Me, ouais. C'est le plus récent.
C'est la nouvelle.
Bon, moi, je suis dans l'ancienne version encore, mais c'est vraiment BDH.
On m'a sorti avant, j'ai Pick Me.
Mais
c'est un terme
ça fait
que,
peur,
par exemple,
hein, parce que...
entre filles, ouais, souvent, ouais. Ils se disent ça.
Mais oui, les filles, c'est ça le problème.
Mais c'est, et malheureusement, et c'est ce que je pense, peut-être, mm-hmm. Wafa, tu as dit, c'est qu'en fait, finalement, je pense que c'est juste un niveau d'âge. Mm. Mais en fait, finalement, moi, j'ai juste envie de poser une question, et c'est une question que j'ai déjà posée à mon entourage. Est-ce que vous avez, et là je parle aux filles, beaucoup d'amis d'enfance?
Ouais. Par la grâce, Camélia.
Par rapport à un genre particulier ou en général?
Filles, du coup.
Ah, ok, que
vraiment,
des amis filles.
Que des filles. Sur les gens avec qui vous avez grandi, que vous avez aimé quand vous étiez plus jeune, par exemple?
Non, parce qu'en fait, tout simplement, le principe de sororité n'était pas forcément respecté.
Ok.
Ok.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Ouais. Ma meilleure amie, je la connais avant sa naissance. Voilà, je l'ai dit.
Camille?
Moi, étonnamment, mes amis d'enfance, les plus anciens, il y en a un à cette table d'ailleurs, c'est lui qui vient de poser la question.
Ah, oui.
Donc c'est surtout des hommes, mais les femmes que j'ai dans mon entourage, qui sont encore dans mon entourage aujourd'hui, c'est depuis le lycée.
Ok.
Oh, c'est vraiment depuis le lycée.
C'est bien.
Mais mes plus anciens amis encore avec qui je suis amie aujourd'hui, c'est depuis, c'est des hommes.
Ok. Okay.
Bah, du coup, moi, la question se pose même pas. Hein. Franchement, moi, j'ai gardé le même noyau depuis la maternelle.
C'est beau ça.
Plutôt collège.
Plutôt collège, bah pareil aussi. Ouais.
Collège maternel, ouais.
Ouais.
Donc tu vois que même dans la manière dont.
J'aime pas l'essentialisation que tu es en train de faire là.
En fait, moi, j'aime pas dans tout ce que j'aime pas dans son truc.
Arrêtez.
Non, en fait, j'ai remarqué un truc. Je pense vraiment que en fait, ça a tiqué dans mon esprit, c'est qu'en fait, il y a des comparatifs, tu peux pas les faire parce que comme tu l'as dit au début.
C'est l'environnement.
Non, moi, après. Peut-être que tu me diras si j'ai tort ou pas. Non, j'ai l'impression qu'en fait, les hommes, on fonctionne différemment. Et c'est parce qu'on fonctionne différemment, peut-être, ce qui fait que j'ai l'impression que nos amitiés, elles viennent de... Pourquoi je dis ça? Elles viennent de plus tôt, elles viennent de... depuis qu'on est un gamin. Parce que moi, j'ai grandi principalement dans un environnement de femmes. Et donc, du coup, c'est vrai que la plupart des femmes que j'ai côtoyées, leurs amis, c'est des amis qu'elles ont, qu'elles ont eu récemment, c'est-à-dire soit au lycée, soit pendant les études, soit dans le cadre du travail. Mais leurs amis d'enfance, pour la plupart, elles ne les avaient plus. Elles n'avaient plus gardé en contact. Là où c'était différent des hommes.
Moi, je réagirais juste.
Et surtout, c'est parce qu'on fonctionne peut-être différemment.
Moi, je pense qu'on a juste des vécus différents, dans le sens où moi, j'ai déménagé 3 fois dans ma vie. Enfin, tu vois, si tu restes au même endroit tout le temps, forcément, tu peux plus facilement garder les mêmes contacts.
Non, ouais, je suis d'accord.
Qui soulève, hein.
Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai énormément déménagé aussi, donc ce qui fait que le lien est compliqué.
Un dernier mot, Cam, comme ça, on va pouvoir conclure. Moi, tu voulais réagir.
Moi, dans mon cas, par rapport à ton observation, ce que j'ai constaté, c'est que quand on était petits, nous, les garçons, on avait beaucoup plus le droit et même l'envie de sortir dehors. On allait dehors, on traînait, on faisait les 400 coups. Là où les filles, elles étaient amies au collège, où elles étaient amies dans des... Tu vois ce que je veux dire?
Ensuite, quand
elles étaient à la maison, ensuite, la maison, c'est la maison. Mais pour moi, je trouve que c'est un des trucs qui a fait que nous, en tant que garçons, on a eu statistiquement beaucoup plus l'occasion de brasser énormément de gens.
C'est
tu vois ce que je veux dire?
Pense au
nombre de copains que tu as eu au collège, ensuite, c'est devenu des amis. Là où les filles, c'était, il y a 2-3 filles dans la classe que j'aime bien, ensuite, c'est mes amis. Mais ensuite, vu qu'elles brassent moins de gens, statistiquement, comme autant que les garçons, il va y avoir des disputes, mais elles ont moins ce brassage, elles ont moins ce truc de sortir et rencontrer les amis d'amis, etc., etc. Et le groupe, il s'étoffe, le groupe, il sélectionne, etc.
C'est vrai.
Après, c'est vrai que je rajouterais juste quelque chose. Moi, je parlais de mes amis, tu sais, ici en France, mais moi, je considère que ma famille éloignée, tu sais, vu que tu l'as choisie, pour moi, ça reste, tu vois, ça reste mes amis. Et c'est vrai que là, ça rentre complètement dans ce que tu disais. Vu que j'avais cette opportunité de voir toute ma grande famille en Tunisie, j'ai beaucoup d'amis en Tunisie. Ici, beaucoup moins parce que c'était métro boulot dodo à Skip. Camélia, je te laisse. Cam, désolé, ça va.
On aime bien Camélia, donc ça va. C'est pas gênant.
Il te reste moins d'une minute pour me faire une belle conclusion.
Non, en vrai, pour conclure, pour moi, la guerre des sexes, ça ne devrait pas exister parce qu'on ne devrait pas se haïr les uns les autres. Déjà, premièrement, en général, on est, comme disait tout à l'heure Oussoufa, on est des humains. Apprenez à voir l'humain en face de vous et pas son genre ou son. Vous avez compris, genre.
Ouais.
Arrêtez, juste parler avec un humain, c'est un humain, prenez l'humain pour ce qu'il est, et cherchez pas plus loin, apprenez à connaître cette personne comme ça, genre de pas se prendre la tête. Et du coup, surtout, je dirais, aimez-vous, et arrêtez de vous battre, par pitié, arrêtez de vous battre, et tout le temps, que ce soit en interne comme en externe, arrêtez de vous battre. On est tous des humains, on est censés tous être unis, on est sur tous des mêmes personnes, on s'aime, on est tous une famille.
Merci pour cette belle conclusion. Je tiens vraiment à tous vous remercier. Merci à toi, Oussoufa, d'avoir fait le déplacement, parce que c'était très, très instructif, tout ce qu'on a pu apprendre là. Incel, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire.
Vraiment, l'intervention était incroyable.
Merci d'avoir donné des solutions.
Merci.
Merci à toi, Benoît, d'avoir partagé avec nous ton vécu. Merci à toi, Camélia, d'avoir pris le recul sur ta propre situation. Merci à toi, Cam, de nous avoir écoutés et d'avoir pu alléger tes propos. Et merci à toi, Noé, acolyte.
Et merci à toi, Wafa, d'avoir... Merci, Wafa.
On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. En attendant, portez-vous bien et la paix sur vous.
Yes.
C'était mieux avant. Get it, 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 get it